Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Légende Podcast.
Bonjour, je m'appelle Marc Trévidic, je suis actuellement président de cour d'assises à la cour d'appel de Versailles.
Merci Marc, je vais reprendre le clap. Bienvenue.
Merci.
Marc Trévidic, moi je vous ai déjà vu pas mal de fois en interview quand il y a des attentats, notamment sur BFM TV, sur Europe 1, etc., sur pas mal de chaînes. Président, vous avez dit de cour d'assises, c'est comme ça qu'on dit, à la cour d'appel de Versailles. Vous avez travaillé 14 ans au pôle antiterroriste, vous avez fait vraiment plein de choses, dont 10 ans en tant que juge spécialisé dans l'islam radical, on va en parler après. Vous avez travaillé sur l'affaire des moines de Tibérine et vous avez démantelé une filière djihadiste notamment. Enfin, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on l'expliquera au fur et à mesure parce que vous avez fait beaucoup de choses très intéressantes, mais parfois les termes, on ne sait pas forcément dans un jugement exactement qui fait quoi dans un procès, qui est le juge, qui est le magistrat, quelle est la différence, etc. Je vous poserai des questions pour que vous puissiez nous expliquer à chaque fois, si vous voulez bien.
Ok, bien sûr.
Pour que ça soit un peu compréhensible et clair pour tout le monde, mais en tout cas, merci d'être là. Je sais que vous n'avez peut-être pas fait d'interview d'une heure et demie complètement sur vous.
Une heure et demie, non, ça, c'est beaucoup. Ouais.
On a reçu Jacques Dallest ici, il y a quelques mois. Vous pouvez aller voir d'ailleurs l'interview, c'était très intéressant, qui était magistrat à l'époque. Il a fait plusieurs choses, mais il était magistrat à un moment donné.
Ouais, bah, il a été procureur à Ajaccio.
Procureur aussi.
J'étais procureur antiterroriste au début des années 2000 et je l'ai vu quand j'allais voir un cadavre là-bas, parce qu'on se déplaçait quand il y avait un assassinat qualifié de terroriste, et à l'époque encore, s'il y en avait beaucoup.
Et vous déplaciez à chaque fois pour voir le cadavre?
Oui, en fait, à l'époque, il y avait des règlements de compte entre le clan Santoni et le Campieri. L'un, c'est Corse du Nord, l'autre, c'était Corse du Sud, et ils se liquidaient entre eux, et puis, bon, bah, on allait effectivement
constater
sur place, parce que le procureur, justement, magistrat du parquet, ministère public, il dirige l'enquête au début, l'enquête de flagrance, comme on
l'appelle. Oui, monsieur, monsieur.
Il dirige la police judiciaire, donc il va sur place, il voit quel service est saisi, les premières investigations, c'est après qu'il va saisir un juge d'instruction. Voilà, mais au début, c'est le parquet qui fait l'enquête.
Vous allez nous expliquer ce que vous avez vu, puisque vous avez vu beaucoup de choses pour le coup. Très intéressant, vous allez voir. Juste, vous venez, donc vous avez grandi avec vos parents, parce que c'est intéressant quand même de comprendre le terreau familial. Grand frère, avec votre grand frère, entre la Bretagne et le Pays Basque, c'est quand même... voilà. Votre papa était cadre chez Renault, plutôt de droite, et votre mère travaillait dans une association qui accueille les immigrés.
L'Amicale d'enseignement des étrangers, oui.
Donc plutôt de gauche.
Oui.
C'est ça. Et vous aviez ils avaient des engueulades à table
Alors, il y avait des engueulades, des discussions franches et ouvertes, on va dire. Non, non, mais ils respectaient la vie de l'un ou de l'autre. Mais comme c'était une période... moi, je suis né en 65, donc il y a eu la présidentielle de 74, il y a eu la présidentielle de 81, et il y avait vraiment des camps. Ma mère était Mitterrand, mon père, c'était Giscard, puis après, voilà. Giscard aussi, j'allais dire. Et donc, ça discutait, et il y avait vraiment deux clans opposés. Il faut se souvenir quand même qu'il y a des gens qui disaient qu'on allait avoir les chars russes, les chars soviétiques en France si Mitterrand était élu. Avec le recul, ça fait un peu rire. Mais voilà, donc des grandes discussions sur la décentralisation, sur la peine de mort, tous les sujets qui étaient débattus à l'époque.
Je dis ça parce que c'est intéressant, après, pour comprendre un peu vos positions, qu'on va aborder des sujets un peu plus récents, pour comprendre justement ce qui a pu vous nourrir entre la droite, la gauche, etc. Vos parents se séparent quand vous êtes ados.
À un moment donné, ils se sont séparés, mais ils se sont remis ensemble.
C'est vrai ?
Oui.
Ah ben, on a un point commun, dis donc. Ben ils se sont séparés combien de temps ?
Oh, ils sont bien séparés 6-8 mois, à peu près.
Ah oui, d'accord. C'est 6-8 ans, mais c'est à peu près la même chose.
Ah, non, moi...
Ils se sont remis ensemble ?
Oui, ils se sont remis ensemble, oui. Oui, donc j'étais très mal quand ils se sont séparés, ça a été très compliqué, et puis ils se sont remis ensemble, et après, bon, il a fallu du temps avant que ça redevienne comme avant. On sentait de la tension quand même.
Ah, c'est vrai?
Oui, voilà, c'est pas du jour au lendemain.
Ça se pardonne pas du jour au lendemain.
Ça s'efface pas, voilà. Et il a bien fallu, avant que vraiment je sente qu'ils sont à nouveau amoureux l'un de l'autre et bien ensemble, il a fallu sans doute 3-4 ans.
Après, vous passez le bac L, vous obtenez le bac L littéraire. Vous hésitez à l'époque entre deux filières, le droit et Sciences Po. Vous partez où ?
Droit.
Vous partez en droit ?
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est vrai que vous devenez juge d'instruction en 89, cette fois, 1er février 89.
89, je rentre à l'École nationale de la magistrature.
OK.
Je fais 2 ans là-bas et après, premier poste, c'est 1er février 91, où je suis nommé juge d'instruction à Péronne.
2 ans plus tard.
Voilà, parce qu'il y avait 2 ans de formation à l'époque à l'ENM.
Imaginez que j'ai 4 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un juge d'instruction, pour comprendre vraiment avec des mots très simples et rapidement, si vous deviez expliquer à un petit neveu ?
C'est un juge, mais qui a cette particularité de diriger des enquêtes. Il va à la fois diriger donc, les gendarmes ou les policiers qui vont travailler avec lui, ordonner des expertises, entendre lui-même des personnes mises en cause, des témoins, et il va rendre des décisions juridictionnelles, il va tirer conséquences de son enquête. À la fin, il va décider, par exemple, s'il renvoie devant le tribunal correctionnel, s'il estime qu'il y a des charges suffisantes, s'il fait un non-lieu parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments, ou si c'est un crime, s'il renvoie devant une cour
d'assises. C'est hyper intéressant à faire.
Voilà. Donc, oui, c'est la seule vraiment fonction où on a cette double casquette de juge et d'enquêteur. Ça fait son charme, puisqu'il y a l'intérêt des enquêtes criminelles, notamment, puisque la juge est saisie pour des affaires graves, quand même.
Oui, ce n'est pas des petits...
Voilà, donc il y a ce côté recherche de la vérité qui est très importante.
Et là, il vous envoie dans la Somme, dans le 80, oui. C'est ça, en 92, du coup, vous le disiez, à Péronne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une affaire qui vous a marqué pour comprendre ce que c'est qu'une affaire que vous aviez à gérer ?
J'arrive le 1er février 91, et très peu de temps après... dans la Somme, il faut bien comprendre qu'il y avait surtout des affaires de stupéfiants et des affaires d'inceste, si je synthétise.
D'accord, ok.
Des meurtres de temps en temps, évidemment, comme partout. Quand
vous parlez de manière... C'est vrai que c'est votre vie courante, oui, les histoires comme ça, mais c'est violent à encaisser au début, de voir la misère du monde.
Oui, alors bien sûr, d'abord parce que j'avais 25 ans quand j'ai commencé. À 25 ans, et bon... Vous êtes quand même pas, vous n'avez pas une expérience de la vie et de ce que peut faire un
monsieur,
être humain
monsieur.
À un autre être humain, et vous voyez des choses assez étonnantes. Alors évidemment, tout ce qui est familial, inceste, etc., il y en avait beaucoup en Picardie, c'est choquant, parce que
évidemment.
C'est possible, mais aussi des actes très violents, voir son premier cadavre, par exemple, c'est quelque chose de violent quand on est jeune, c'est pas quelque chose de tout à fait naturel, après on s'y fait. Et moi, j'oublie souvent que ça peut être violent. J'y repense maintenant que je suis président d'assises, parce que les jurés, je fais attention aux images qu'on leur montre.
Ah, c'est vrai ?
Bah oui, fatalement.
Les jurés populaires, ceux qui,
bah oui,
comme
sûr,
vous et moi,
tirés
vous êtes tirés au sort.
Et donc, quand on va juger une affaire où il y a eu vraiment, entre guillemets, une petite boucherie, il faut faire attention, il faut qu'ils voient quand même, parce qu'ils sont là pour
comprendre la violence du truc.
Ouais. Pour comprendre la violence, mais il faut faire un tout petit peu attention. Il y a des gens qui peuvent être assez choqués.
Vous me raconterez après. On va revenir sur les jurys, c'est hyper intéressant.
Alors, à Péronne, l'affaire qui m'a choqué, c'est une affaire où je me suis trompé au départ, parce que c'était justement une affaire intrafamiliale où une jeune femme de 18-19 ans porte plainte pour viol contre son frère. Alors, le fait est qu'elle avait des traces de coups parce que son frère l'avait frappée. Ça, c'est clair. Mais le frère niait complètement l'avoir violé, avoir eu, voilà, même pas une agression sexuelle. Bon.
Là, vous le rencontrez quand c'est comme ça ?
Ah bah, il a été mis en examen et j'ai même mis en prison au départ.
Mais juge d'instruction, c'est-à-dire qu'ils arrivent face à vous, en vrai,
oui,
vous leur parlez au bureau.
À la fin de la garde à vue, il est déféré devant moi, je le mets en examen. On l'inculpait à l'époque, on utilisait le terme inculpé en 91. Hein. Donc je notifie les charges qu'il y a contre lui. Et après, je décidais à l'époque si je le mettais en prison ou pas, en détention provisoire, pendant le reste.
Mais
de l'enquête.
Mais ce pouvoir-là.
Oui, aujourd'hui, c'est un juge des libertés de la détention. C'est-à-dire, le juge d'instruction, il saisit un autre juge en demandant la détention, et c'est cet autre juge qui a le pouvoir de le faire. Mais à l'époque,
c'était
ça n'existait pas. Ouais. C'était le juge d'instruction qui faisait tout.
Il avait plein pouvoir sur
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Donc, à cette époque-là, donc, je le mets en détention provisoire parce que la personne avait porté plainte avec du retard, hein, quand même, quelques temps après, et elle me dit « je suis enceinte ». Je lui demande « est-ce que vous avez eu de relations sexuelles avec quelqu'un d'autre ?»« Non, jamais, donc c'est votre frère, il peut pas, c'est produit du viol. »« Oui, et je vais me faire avorter. » Donc moi, je me disais, bon, parole qui paraît fiable, parce que je lui ai expliqué, on faisait déjà de l'ADN en 91. Donc je lui dis, on va savoir hein, si
vous mentez.
Ouais, si vous mentez ou pas. Donc c'était très clair, elle était face à moi dans le bureau. Moi, elle me dit, non, c'est lui le père. Voilà. Bon, on récupère ce qu'il faut. Après l'avortement, on va au laboratoire de police scientifique de Lille.
Elle était bien enceinte ?
Ah oui, tout à fait. On a attendu l'avortement. On a récupéré immédiatement Voilà, l'embryon, on est allé au laboratoire de police scientifique de Lille.
Donc là, il y a un policier qui attend à l'avortement ?
Ah, mais moi, j'étais là avec deux gendarmes et on est partis ensemble au labo, directement avec.
Et le garçon est parti, lui, en prison ?
Il était déjà en prison. Et là-bas, j'attends l'expertise avec impatience. Et l'expert me dit non, c'est pas lui. Je suis un peu scié. Alors, je fais contrôler à la maison d'arrêt quand il était allé prélever du sang, etc.,
du garçon,
que c'est bien lui qui est sorti de la cellule, qu'il n'a pas envoyé un co-détenu.
D'accord.
Vraiment, que ce soit clair qu'il n'y a pas d'erreur possible. Et par contre, évidemment, quand on a poussé un tout petit peu, l'expert m'a dit oui, mais il y a des concordances génétiques importantes. Et au bout du compte, on a découvert que c'était le père qui avait eu des relations sexuelles avec sa fille. Et la fille, voulant pas accuser le père, avait accusé le frère. Vous voyez le truc ?
Mais c'est pas possible.
Mais si, c'est possible. Ça vous apprend une chose, c'est qu'il se passe tellement de choses dans le cerveau humain, des réactions qui vous paraissent complètement irrationnelles, que voilà, qu'il faut quand même être très prudent.
Le père, il a mis enceinte sa fille.
Oui, mais du coup, elle, étant enceinte, elle a accusé son frère pour ne pas accuser son père.
C'est quoi cette famille ?
Ah mais c'est des familles, c'est le genre de choses que vous pouviez trouver.
Mais ça existe encore aujourd'hui.
C'est le genre de choses. Non, je vous assure que c'est des choses qu'on voit en cour d'assises, hein, dans des affaires. Voilà. Alors évidemment, généralement, les dossiers qu'on a, c'est des enfants plus jeunes. Là, elle avait déjà 18-19 ans, donc les relations incestueuses peuvent durer assez longtemps. Enfin, C'est pas un cas unique, ce genre de choses.
Ah ouais.
Mais c'est surtout par rapport à ce que disait la victime. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi elle mentirait, toutes ces choses-là. Et il faut toujours quand même aller chercher, parce que c'est très compliqué, l'esprit humain, les situations sont tellement complexes qu'on peut arriver à avoir des choses qui vous paraissent complètement absurdes.
Et là, vous avez fait sortir le garçon ?
Ah oui, après, j'ai fait sortir, du coup.
Ouais. Là, vous le revoyez ? Pour lui dire qui qui lui annonçait ?
Oui, tout à fait. Oui. Et puis, il a dû faire 3-4 mois de détention provisoire. Alors, si vous voulez, c'est une erreur. Mais d'un autre côté, l'enquête s'est poursuivie. On a fait ce qu'il fallait pour corriger l'erreur. Ouais.
Et là, c'est le père qui est parti en prison ?
Exactement, oui.
Waouh ! Là, vous le rencontrez, le père aussi, pareil, à chaque fois ?
Pareil. Vous faites déférer la personne devant vous et c'est devant vous qu'il y a un débat qui s'installe avec, voilà, aujourd'hui c'est contradictoire avec l'avocat, le etc., et puis sur la détention c'est un autre juge, comme j'ai expliqué, mais bien entendu, ce que je veux dire, c'est qu'une enquête, quand elle commence, effectivement, quand on est juge d'instruction, on peut au moins au début se tromper, mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est à
rectifier son erreur,
à faire l'enquête complètement, même si on est convaincu, vous voyez, tout être humain peut être convaincu. Je suis sûr que c'est ça, je suis sûr que c'est lui, ou etc. Il ne faut jamais s'empêcher pour autant de tout vérifier, même si vous êtes convaincu. La vraie erreur judiciaire, c'est quand vous êtes convaincu et du coup, vous ne cherchez que deux. Vous ne faites pas tout le boulot, du coup, vous simplifiez, hein, et c'est là que vous arrivez avec des vraies erreurs judiciaires qui ne sont pas corrigées à temps, en fait. Hein.
Wow. Et la fille, pourquoi elle avait essayé de cacher ça au père et vous a pas dit après ? Elle est condamnée quand
c'est une
quand
façon de non, ben, elle a pas été poursuivie pour autant. C'est une façon de couvrir son père que d'accuser le. Dans sa tête, ça a été ça. Faut pas chercher de la logique tout le temps. C'est l'âme humaine.
Ils ressemblent à quoi ces gens ? C'est des gens particuliers ou ça peut être vraiment les gens que vous croisez à la boulangerie ?
Ah non, ça peut être des gens qu'on croise à la boulangerie. Enfin, là, sur cette affaire-là, il y a parfois des familles, on voit très bien qu'il y a
un problème.
Souci. Ouais. Ouais. Mais là, non, sur cette affaire-là, en soi, elle paraissait toute.
Là, vous parliez de l'ADN avant. Ça a quand même beaucoup aidé, j'imagine, les enquêtes. Et ça a permis, d'ailleurs, il y avait plein de cold cases, d'histoires qui n'avaient jamais été résolues, qui ont été résolues. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas longtemps, là, il y a une joggeuse qui a été tuée en 2008. Ouais. Ils ont retrouvé, je crois, 15 ans plus tard, etc. Est-ce que vous avez déjà été aidé grâce à l'ADN ? Et finalement, est-ce que vous avez déjà été aussi emmené dans une erreur à cause de l'ADN ? Oui ?
Oui. Alors, le problème de l'ADN, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une progression, la technicité de plus en plus grande. Au tout début, justement au début des années 90, il fallait vraiment avoir du sperme, une tache de sang, pour pouvoir vraiment faire une empreinte génétique pour un expert. Et puis au fil du temps, il a fallu quasiment rien. C'est-à-dire que on n'a même plus besoin du bulbe du cheveu. Le cheveu tout seul suffit, vous voyez. Mais du coup, la problématique, c'est que cet ADN se transporte plus facilement. C'est, voilà, c'est pas une scène de crime où il y a de l'ADN, c'est que, bah, alors maintenant, on en est à se poser la question de l'ADN de contact.
Je vais vous dire, est-ce que si je touche une tasse, je bois un verre, Sébastien, au hasard,
touche la tasse,
et là, prend la tasse et tue voilà. quelqu'un dehors, et ils vont retrouver la tasse, est-ce qu'il y a mon ADN sur la...
Alors justement, c'est ce qu'on appelle l'ADN de contact. Donc, c'est, il est clair que l'ADN de contact, généralement, on va avoir un mélange d'ADN quand même. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir que votre ADN, on aura aussi le sien, on aura un mélange. Donc déjà, on se dira, tiens, il y a un mélange, il y a deux ADN sur le même endroit, on va être un peu plus prudent. Est-ce que mélange majoritaire, pas majoritaire?
Ah oui, d'accord.
Mais effectivement, théoriquement, c'est tout à fait possible. Par exemple, je prends une arme, je l'ai, je dépose mon ADN sur cette arme, éventuellement, je vous serre la main, vous allez aussi avoir mon ADN. Prendre l'arme aussi, vous allez mettre votre ADN. On va avoir un mélange important qui va être difficilement interprétable dans l'ensemble. C'est... Mais par exemple, un autre exemple plus concret, plus clair. Vous êtes une bande de braqueurs, vous faites des braquages. Vous êtes plusieurs dans la bande, 5-6. Vous avez un dépôt, il y a des cagoules, des armes, différentes choses. Un coup, c'est vous qui prenez cette cagoule-là, mais un autre coup, c'est moi qui prends la cagoule. Comment on va savoir, sous prétexte qu'il y a votre ADN dans la cagoule, que c'est vous qui, lors du dernier braquage, avez tiré sur le policier, vous voyez, par exemple. Puisque votre ADN est resté dans la cagoule, le mien aussi. Et donc, il faut faire attention. Le raccourci consiste à dire, on a trouvé cette cagoule, il y a votre ADN sur la cagoule, donc vous êtes responsable de tel fait.
Ça vous a emmené comment sur une erreur, par exemple ?
Alors, il y a une erreur en matière de terrorisme, on peut en parler d'une erreur. C'est un groupe breton-basque de TA, donc, et de l'ARB, qui avait volé en septembre 1999 des explosifs à Plévin. Dynamite. Il se trouve que les Bretons les Basques avaient été accueillis par un nationaliste breton en Bretagne, avaient dormi dans un sac de couchage. Et quand ils sont repartis, ils ont gardé le sac de couchage. Et on a trouvé effectivement l'ADN d'un autre nationaliste breton dans le sac de couchage, parce qu'il avait prêté son sac de couchage à son copain nationaliste breton qui l'avait prêté aux Basques. Mais il n'avait rien à voir avec ça.
Ah oui, c'est un gars qui a dormi dedans.
Quand on a arrêté le Basque, on a trouvé l'ADN de ce nationaliste breton. Alors, il cochait toutes les cases. Mais il n'avait jamais vu ce Basque-là, il ne lui avait jamais prêté le sac de couchage, il l'avait prêté à quelqu'un d'autre qui lui avait prêté.
Ah waouh. Ah oui, donc tu peux essayer de ramener sur une mauvaise piste.
Et après, on peut aussi avoir l'hypothèse où quelqu'un veut mettre de l'ADN sur une scène de crime de quelqu'un qui n'a rien à voir là-dedans. Un mégot de cigarette ou n'importe quoi. Donc il faut aussi se méfier.
Est-ce que vous avez déjà résolu une affaire grâce à un détail ? Vous allez me dire, c'est souvent des détails, non, c'est ça ?
Non, mais c'est pas qu'une question de... Enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle un détail. Je vais prendre un exemple. Jean-François Ricard, qui est aujourd'hui patron du PNAT, procureur national antiterroriste, hein, la grosse structure de 26 magistrats qui a été créée après les attentats du 13 novembre 2015. Je l'ai connu comme juge d'instruction... antiterroriste, quand j'étais au parquet antiterroriste, en 2000. Et en 2000, donc, on finissait les attentats de Saint-Michel, Orsay, Maison-Blanche, les attentats de 95.
Dans le métro ?
Oui. Et Jean-François Ricard fait monter tous les scellés, et il y avait, saisi sur l'un des mises en cause, un ticket de carte orange, mais les anciens, vous savez, les anciens tickets de carte orange. Et bien, en fait, on ne le savait pas, les policiers n'y avaient pas pensé non plus, on ne savait pas que dans un ticket carte orange comme ça, est inscrit à l'intérieur du ticket la dernière station où la personne est entrée et la dernière station où elle est sortie. Enfin, ce détail-là. Mais ce qui a permis de voir exactement que la personne était partie, était montée sur la ligne où il y avait eu la bombe, était sortie de station avant l'explosion de la bombe, donc quelque chose qui reliait directement et qui était très intéressant, précisément, comme élément à charge. Donc parfois, c'est un petit détail sur un CD, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a dans les mains. On ne sait pas qu'en fait, tel objet peut parler beaucoup plus.
Il y a beaucoup d'affaires de drogue dans la Somme, parce qu'il y a une aire de repos qui est très connue.
L'aire Asvillier.
Et c'est réel, ça ?
Oui, c'est la plus grande aire d'autoroute d'Europe, en tout cas à l'époque, en 91, quand j'étais à Péronne. Elle est très grande toujours aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup de camions s'arrêtent. que les douanes volantes aujourd'hui, où les gendarmes font passer les chiens, les camions pour essayer de renifler, parce que, évidemment, c'est l'autoroute du Nord. Les Pays-Bas... Donc il y a des grosses cargaisons de drogue, et c'est là où il y a eu des très très grosses saisies. Et c'est pour ça, comme c'était sur le ressort du tribunal de Péronne, je me retrouvais avec des grosses affaires de drogue qui n'avaient rien à voir avec la Somme. Là, c'est vraiment, on se retrouve avec ça, et puis il faut aller enquêter à Périgueux, quoi.
Ah ouais, ouais, d'accord.
Ouais, c'est très embêtant.
Et ça, vous avez réussi à faire diminuer le trafic de drogue ou pas?
Personne. Personne n'arrive à faire diminuer le trafic de drogue. Le trafic de drogue, c'est des années et des années de fonds investis en vain, il faut être clair.
Ah, c'est vrai?
Honnête. Bah, regardez ce que les Américains ont investi avec la DEA sur la lutte contre les narcotrafiquants.
Les narcotrafiquants, exactement. Dans Narcos, il y a la police DEA déjà à l'époque, dans la série notamment.
C'est des millions, c'est des milliards.
Contre les cartels et tout.
Voilà, alors après, il y a un cartel qui disparaît, mais un autre prend le marché, et puis c'est une autre drogue qui vient à la place d'une autre. Enfin, voilà, c'est un vrai souci. Regardez en France, encore aujourd'hui, on a des trafics massifs, et surtout, on a la résine de cannabis, enfin, l'herbe et la résine qui représentent 75 à 80% de notre trafic, qui fait en banlieue, on n'arrive à rien. Enfin.
C'est quoi? C'est les méthodes qui ne sont pas bonnes? On ne pourra pas parce qu'il y aura toujours de la drogue?
Je pense qu'il y aura toujours de la drogue et peut-être qu'il faut essayer d'autres choses. Il faut essayer effectivement de se poser la question. On met beaucoup de moyens policiers pour lutter contre telle forme de drogue. La vérité, c'est effectivement que les jeunes en particulier, il n'y a pas que les jeunes, mais et pas envie de se droguer. Hein. C'est quand même le fond du problème. C'est un problème de santé publique avant tout. On en a fait un problème judiciaire avant tout, je pense. C'est un problème criminel avant tout. Il faudra revenir aux bases et se dire que c'est d'abord un problème de santé publique.
Vous avez essayé, vous, déjà?
Oui, quand j'étais jeune, ouais, j'ai essayé.
Comme ça, vous savez un peu aussi ce que ça fait.
Oui, bah, j'ai essayé.
Quand vous discutez avec quelqu'un, il ne peut pas vous la faire, quoi.
Non, mais j'ai pas tout testé. Il peut toujours me la faire. En plus,
comme Thierry Ardisson, on a fait un blind test des drogues, il avait tout essayé.
Simple fantasme. Moi, je suis pas Ardisson.
M'embrasse d'ailleurs.
Quand j'étais jeune, j'ai essayé des trucs, mais après, ça m'a jamais attiré particulièrement. Et les choses évoluent. Il y a eu des drogues après qui sont arrivées qui sont quand même des bonnes saloperies. Quoi.
Ouais, mais bien sûr. J'ai cherché un petit peu les rumeurs sur la justice en général. Ouais. Les trucs qu'on voit sur Google, les questions que les gens se posent, etc. J'ai essayé de les noter, 5-6, et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est pas du tout le cas. Est-ce que si on insulte un juge au tribunal, on peut être mis en prison directement?
Alors, plus maintenant. C'est-à-dire on peut être mis en garde à vue. Le parquet va pouvoir ouvrir une enquête pour outrage à magistrat et le fermer en garde à vue. Il est vrai qu'il y a encore quelques temps, le président du tribunal pouvait directement statuer et mettre en prison. Sauf qu'il est victime lui-même et que ce n'était pas tout à fait conforme à nos principes. Au contraire,
il faut être jugé par quelqu'un d'autre. Ouais.
Voilà.
S'il manque une simple signature sur un procès-verbal, le juge peut annuler le procès.
Les interrogatoires du juge d'instruction, par exemple, il y a plusieurs pages. Et s'il manque une signature, comme c'est un acte authentique, en théorie, l'annulation est possible. Mais il y a aussi des accommodations, c'est-à-dire que si c'est qu'une page qui n'est pas signée, éventuellement, on va être cancellé cette page-là sur l'interrogatoire.
Ah oui, d'accord.
25, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Donc voilà, les nullités, c'est à géométrie variable.
La justice est parfois tellement lente que certains criminels sont morts avant d'être jugés.
Oui, oui, ça arrive, bien entendu, oui. Bah, après, ça dépend. Et bon, il y en a aussi qu'on en fait tellement qu'on a du mal à les juger.
Un Fourniret, par exemple.
Il a quand même été jugé, mais il n'est pas jugé pour tout. Ouais. Il est mort avant. Il faut dire qu'il avait un gros palmarès, donc ce n'était pas évident.
Ouais.
Mais c'est évident. Et puis, y a, en dehors même de ça, il y a ceux qui ne sont pas pris, qui sont pris très tard, qui n'ont jamais été pris,
Des années plus tard.
Oui, des années plus tard. Mais bon, ça, après, il y a le problème de la prescription, c'est un autre débat.
Faire appel, justement, vous êtes président de la cour d'appel de Versailles, faire appel est souvent risqué parce qu'on peut prendre le double de la peine.
On peut prendre le double, ça dépend combien on a pris déjà en première instance, c'est le maximum légal que la cour d'appel ne peut pas dépasser.
Oui, si on risque 12 ans et qu'on en prend 8,
alors,
on ne peut pas en prendre...
Il est vrai, alors je vais répondre clairement, il est vrai qu'il y a des cours d'appel qui essaient de dissuader les prévenus de faire appel, et qui ont une réputation de rajouter une petite couche si jamais la personne est déclarée coupable.
Bah, Versailles.
Voilà, Versailles,
Versailles, c'est connu pour être ferme.
Bah, c'est vrai aussi que c'est pas sans risque, effectivement, de faire appel, parce que qu'est-ce qu'on vient dire ? On vient dire, j'estime que j'ai trop pris, ou... Alors, ça dépend aussi. Parfois, les gens font appel parce qu'ils s'estiment innocents, complètement. C'est pas quand même le même débat. Il y en a qui font appel parce qu'ils estiment qu'ils ont trop pris. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, celui qui dit, je viens appel, je suis coupable, mais j'estime que j'ai trop pris... ça peut être mal perçu.
– S'ils disent « je suis innocent au premier procès », et en fait, finalement, bon, c'est eux, on imagine, ils font appel, est-ce que c'est une bonne technique de dire après « non, mais pardon, en fait, c'était moi, je veux… »
– Ça arrive assez souvent.
– Et ça, ils prennent moins ou c'est pas une bonne excuse ?–
Ils peuvent prendre moins, s'ils arrivent vraiment et qu'ils viennent dire « oui, bon, ma défense c'était idiot, je veux reconnaître, je veux m'excuser auprès des victimes, etc. » Ça peut marcher et amener une certaine clémence, parce que c'est vrai que le fait de reconnaître ses fautes et dans notre société un peu tradition judéo-chrétienne, j'allais dire, du pardon, etc., ça peut être
la miséricorde.
Oui, mais on dit souvent aux gens qui reconnaissent pas ce qu'ils ont fait, qui admettent pas ce qu'ils ont fait, il y a pas d'introspection, voilà. Donc reconnaître sa faute, c'est vrai que c'est important dans notre tradition.
Mais faute avouée à moitié pardonnée ou pas non plus à moitié pardonnée ?
Non, pas à moitié pardonnée pour autant.
Hein. C'est un peu facile sinon.
Oui, surtout si c'est tardif.
C'est ça. Si c'est parce qu'ils n'ont pas le choix.
Oui,
Si on n'est pas d'accord avec le juge, on peut dire objection, votre honneur, et se lever comme aux États-Unis.
Non, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Et puis, voilà. Non, il n'y a pas d'objection. D'ailleurs, on ne nous appelle pas à votre honneur, déjà. Et puis, les objections, c'est plus les avocats aux États-Unis qui font ça. Ils font objection aux questions des autres. Le juge aux États-Unis, il est neutre. Mais si une question est trop orientée, un des avocats peut dire objection à votre honneur, sous-entendu, le juge va retirer la question, va l'enlever, va demander au témoin de...
Ah oui, d'accord. Il n'y a pas ça en France.
Non, il n'y a pas ça.
On n'a pas le droit de se lever, de parler au juge quand on veut en France.
Non.
Si la justice condamne un innocent, il y a un barème de dédommagement par année de prison. Comme Patrick Dils, par exemple.
Il n'y a pas un barème de dédommagement par...
C'est au cas par cas ?
Ben oui, parce que les préjudices ne sont pas les mêmes. En fait, le principe, c'est de réparer le préjudice. Bon, eh ben, les situations ne sont pas toujours pareilles. Quelqu'un a pu perdre
famille,
son boulot, sa famille, son appartement, parce qu'il ne payait plus le loyer.
Sa réputation.
Voilà, ça peut ne pas être... ça dépend de quoi on a été accusé, la réputation aussi, oui, effectivement.
Le président de la République a le pouvoir d'annuler, de gracier toutes les peines qu'il veut.
Il peut, effectivement, il a un droit de grâce, effectivement.
Sur n'importe qui.
Je crois.
Parce que parfois, il y avait des présidents qui, à Noël, enlevaient...
Ça, c'était, ils enlevaient un mois par-ci, par-là.
Hollande a fait ça, je crois, à l'époque.
Le texte existe toujours, hein, le droit de grâce présidentiel, mais il est très peu employé.
Et donc, après la Somme, vous partez en tant que substitut du procureur à Nantes. Mmh. C'est ça, là, cette fois-ci, on est en 94, donc 2 ans, à peu près, environ après. Qu'est-ce que c'est que substitut du procureur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et après, je vais demander de raconter une anecdote aussi sur des affaires. Alors,
le procureur, donc, c'est le chef d'un parquet, et il a des procureurs adjoints, des substituts, qui sont sous ses ordres hiérarchiques, c'est pour ça qu'on dit substitut du procureur, qui vont aux audiences, qui requièrent, qui dirigent des enquêtes, mais en son nom. Et ce lien hiérarchique fait que, il peut donner des ordres à ses substituts, il y a un problème, puisque malgré tout, c'est quand la magistrature, donc c'est toujours un peu délicat. Ou alors, prendre le dossier, un substitut, pour le traiter lui-même, si le substitut a un problème moral par rapport à un dossier.
C'est plus difficile à faire que le premier boulot, là, le changement
Ça dépend comment vous le faites. Si,
juge d'instruction.
Vous connaissez, mes substituts, d'abord, vous dirigez aussi les enquêtes, mais les enquêtes du début, hein, du parquet. Vous allez à l'audience requérir. C'est pas tout à fait le même boulot. Vous pouvez le faire à une certaine indépendance morale. Comme je vous dis, si le procureur vous donne des consignes sur un dossier et vous dites « non, moi, je ne peux pas », prenez-moi le dossier, donnez-le à quelqu'un d'autre ou faites-le vous-même, il le comprendra, hein, normalement.
Hein. Le substitut du procureur, c'est celui qui est représenté, quand j'ai eu le procès des braqueurs Guillaume Jacquin de la famille, c'était celui qui représentait l'État, en gros, et qui demandait une peine.
Qui retire la peine, notamment, s'il estime que la personne est coupable.
Et qui tend les bras, à un moment donné, il dit « la France vous tend les bras, vous pouvez maintenant avouer ». Etc. C'est pas facile comme boulot. Hein.
Non, c'est pas facile.
Beaucoup d'énergie aussi. Hein.
Oui, et puis il y a aussi le fait qu'on considère un peu le ministère public comme l'accusé. accusateur public hein, qui requiert l'application de la loi, qui est très répressive. Or, parfois, quand ça ne tient pas du tout, ça arrive qu'un parquetier à l'audience requiert l'acquittement aux assises ou la relaxe. Il représente l'intérêt général. Hein.
Et là, vous avez eu des affaires difficiles à gérer en tant que substitut. Une affaire qui vous a marqué?
Cette affaire m'a marqué parce que je n'avais pas eu ça à Péronne comme juge d'instruction. C'est mon premier corps d'enfant, j'allais dire, un petit enfant de 6 ans. Alors, il se trouve qu'à l'époque, j'avais déjà un enfant de 6 ans à peu près, 5-6
vous,
ans.
Okay.
Ouais, moi, comme papa. Ouais. Donc, ce n'est pas facile.
Et
donc, on a retrouvé le corps, c'était branle-bas de combat parce que le petit garçon avait disparu. Et on a retrouvé le corps donc, noyé dans le lit de rivière. Et je sais que l'autopsie, j'ai eu du mal, là, pour le coup. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'assistais aux autopsies.
Hein. Ah, vous êtes obligé d'y être ?
On n'est pas obligé, mais bon, c'est bien d'être aux premières loges pour savoir tout de suite ce que va discuter avec le médecin légiste, savoir tout, parce que c'est le genre de dossier où il y a les médias, il y a tout ça. Hein, donc ça vous permet de dire tout de suite au procureur, voilà, c'est ça ou ça, de le savoir très vite et pas avoir de choses déformées, et de poser les questions au médecin légiste par rapport à votre enquête. Si vous n'y êtes pas, vous allez avoir le regret, une perte d'information.
D'accord.
Ça permet vraiment de dire au médecin légiste, mais vous êtes sûr, ça c'est ça, vous pensez que vous n'avez pas une autre théorie, etc. Voilà, je pense qu'il faut. Il faut vraiment, surtout dans ce genre de dossier. Mais du coup, eh ben, c'est un petit corps de petit gamin de 6 ans, vous voyez. C'est difficile.
Qui était mort comment ?
Expliquer. Alors, on soupçonnait un crime finalement, c'est pas évident. Donc, c'était pas clair que ça soit criminel ou pas. Donc, c'est resté un peu un point d'interrogation. Mais il y avait ce débat-là, quoi.
C'était une noyade.
Violence sexuelle, ouais. Voilà, il y avait une noyade pour ce qui est de la mort elle-même, mais qu'est-ce qu'il faisait là, c'est un autre problème. Voilà, mais bon, en dehors de ça, ça m'a choqué par l'autopsie elle-même, par aussi quelque chose que j'ai fait, c'est la première fois que j'étais amené à le faire, c'est que quand on a découvert le corps dans l'eau, c'est moi qui suis allé l'annoncer aux parents. Donc, pas évident, si vous voulez, pas évident. Alors,
eux, ils étaient dans leur maison. Papa d'un enfant, on se projette.
Ils étaient dans leur maison. Ils ne savaient pas, ils espéraient que l'enfant soit perdu ou peut-être même enlevé, mais mort.
Là, il n'y avait plus de doute, quoi.
Donc je suis allé, dès qu'on a découvert, j'ai fait venir le médecin légiste sur place, sur les berges, et voilà, il m'a dit déjà, voilà, on va l'amener pour l'autopsie. Bon, il n'était pas ligoté ni rien, l'enfant, il n'y avait pas de traces visibles trop. Et donc je suis allé voir les parents, et c'est dur, enfin... Même maintenant, je suis marqué par ça, quoi. C'est très compliqué.
Vous aviez 27 ans, en plus, là ?
Ouais, en 94-95, je suis né en 65. J'allais aller vers les 30 ans.
Ouais, c'est ça, 29. Vous leur annoncez de manière la plus simple possible ou... Comment on annonce ça ? Parce que ça, on n'est pas formé à ça.
On s'est assis dans le salon. Je suis désolé, on vient de retrouver votre fils et... Il est décédé. Et là, je ne peux pas vous dire, on ne sait pas encore, il va falloir qu'on fasse une autopsie pour savoir si c'est criminel ou pas. Mais bon, on va faire très attention. Il y avait aussi l'idée qu'ils puissent récupérer rapidement le corps de leur enfant et qu'il soit en bon état. Donc ça, c'est aussi... Faire attention à ces choses-là. Il y a plein de choses. Mais voilà, enfin... Et après, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de la souffrance en face. Pas grand-chose.
Ouais, pas facile tous les jours.
On n'apprend pas ça sur les bords de l'ENM, hein, de la magistrature.
Et ça, vous, à force, avec les années, c'est pas plus facile, mais vous savez mieux le faire ?
Non.
Non ?
Non. J'avoue que par moment, dans les années qui ont suivi après, j'ai plutôt eu l'impression que par moment. Mais cette histoire me revenait. Par moment, tout d'un coup, je découvrais que j'étais un peu brutal dans la façon de dire les choses aux victimes. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec l'habitude. Mais il y a toujours une petite voix
trop froide, froidement.
Attends, là, qu'est-ce que t'es en train de faire, là ?
Trop mécanique.
Voilà, c'est bon, là.
Mets-toi à leur place.
Rappelle-toi, quoi. Et voilà, donc, avec le temps, on a malheureusement tendance à devenir plus froid, plus mécanique, et faire moins attention. Au début, au contraire, on fait très attention.
Est-ce que c'est déjà été trop investi ? Vous dites, ça vous a marqué plusieurs années, et encore maintenant, parfois, vous y repensez, etc. Est-ce que ça a été trop investi sur une affaire ? Est-ce qu'il y a des affaires pour, justement, quand vous êtes substitut du procureur ou ou même ouais. Je parle pour les magistrats, pour n'importe qui, où vous rentrez trop dans l'affaire, à ne plus endormir la nuit, à aller prendre votre voiture personnelle, à revoir le lieu le week-end pour comprendre. Est-ce que vous avez déjà été trop investi ?
Non, j'ai été très, très, très investi dans certaines affaires de terrorisme, ça c'est sûr, des vieilles affaires de terrorisme. Alors, je ne sais pas ce qui veut dire trop investi, mais vraiment à
le moment où ça devient un peu...
Obsessionnel un peu, oui.
C'est le but aussi de votre métier, c'est d'aller chercher vraiment.
Oui, vraiment, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des affaires où j'ai surinvesti sans doute. Karachi, par exemple. Tout ce qui était... voilà, ce dossier était très complexe et de plus en plus, plus je creusais, plus je tombais sur des pans entiers, notamment ces histoires de rétrocommission, etc.
C'était quoi, Karachi?
Karachi, c'est un attentat 8 mai 2002 où pas mal de personnes qui travaillaient au Pakistan à la construction de sous-marins pour l'armée pakistanaise sont morts dans un attentat.
Et donc, des Français, donc ?
Oui, des Français. Et puis il y a eu des blessés, etc. Donc ils étaient à Karachi. J'avais 86 parties civiles qui étaient des familles des victimes. Et l'enquête a permis à un moment donné de voir qu'il y avait un problème de réseau de commissions avec des rétro-commissions qui venaient en France. Enfin, c'est l'histoire Balladur, Chirac, etc. Bon, bref. Là, c'est difficile de ne pas être très investi parce qu'en face de vous, vous avez plein de familles, de gens qui demandent la vérité. Et plus ils sont nombreux et plus ils sont pugnaces avec leurs avocats, etc. Et voilà, ça vous entraîne aussi, hein.
Bien sûr.
Vous n'êtes pas tout seul.
Ça vous pousse, c'est ça. Et comme vous savez que c'est médiatisé, j'imagine aussi. En fait, il y a toujours
c'est médiatisé, donc en plus. Mais c'est surtout l'attente. L'attente, parce qu'à partir du moment où vous dites à des parties civiles, là, on s'est planté, c'est pas ça du tout, il y a une autre piste possible. Ils sont dans l'attente. Et en plus, moi, je me suis jamais facilité les choses parce que je réunissais les parties civiles pour leur expliquer l'avancement. Et quand vous faites ça, vous avez en face de vous. Et donc, il faut répondre à leurs questions. Et puis, vous ne pouvez pas leur raconter des cracks.
Bien sûr. Est-ce que le crime parfait existe ? Est-ce que vous l'avez vu ?
Le crime parfait, je suis persuadé qu'il existe. Mais il n'a pas besoin d'être parfait pour qu'on le qu'on n'arrête pas le coupable. Hein. Il y a un peu le leurre de penser qu'il faut vraiment que le crime soit parfait pour que la justice... Écoutez, il n'y a qu'à voir les histoires des tueurs en série. Il y en a qui ont réussi pendant des années et des années à ne pas être pris. Par moments, nos enquêtes ne sont pas bonnes du tout. Il y a des boulevards qui n'ont pas été creusés, il y a un désintérêt, quelqu'un vient signaler une disparition très inquiétante, on ne fait rien du tout. Vous voyez, j'en ai juge encore aux assises. Hein.
Ah oui.
C'est-à-dire que par miracle, c'est revenu, mais j'avais jugé il y a quelques temps l'assassinat d'un Pakistanais, un Indien qui bossait en France et qui était tombé amoureux de la fille du patron. Avec le problème des castes et tout ça. Bon, bref, un jour, il disparaît. Quand ses collègues, les 4-5, sont venus au commissariat dire « On est très inquiet, notre copain, il a disparu, c'est pas son style du tout, pas de nouvelles », il s'est rien passé. Une petite fiche disparition inquiétante, et puis rien. Puis un an et demi plus tard, il est remonté à la surface, le corps, qui avait été jeté dans la Seine.
Oh là là.
Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de crime parfait. Il n'était pas parfait du tout, ce crime. C'est nous qui étions imparfaits.
Ouais, ça dépend de l'enquête.
Voilà, donc je suis sûr qu'il y a plein de crimes qui passent à l'as. Mais c'est parce qu'on traite à la légère certaines choses. Il y a des viols qui ont été traités à la légère, on le sait très bien. Et des meurtres, il y en a des paquets traités à la légère. Et quand on voit la carrière de certains tueurs en série, mais on se dit, c'est pas possible.
Ouais, comment ils ont pu faire
de... Même pour des gamines de 15-16 ans, on traite ça comme une disparition. Aujourd'hui, on mettrait plus de moyens, sans doute.
D'ailleurs, il y a beaucoup de gens disparus en France. On voit à chaque fois, je ne sais plus combien par an, mais c'est énorme en fait.
Oui,
est-ce que c'est souvent des meurtres ou c'est des fugues, mais on ne les retrouve jamais ?
Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut arriver à fuguer. Les vidéosurveillances, les cartes bancaires, les avions, les trucs, tous les contrôles qu'il y a sur les
douanes.
Sociétés,
ouais.
Moi je crois très franchement, quelqu'un qui arrive à disparaître comme ça, je ne vois pas comment.
Quand vous aviez Dupont de Ligonnès ?
Mais il y a toujours une explication. On ne peut pas disparaître longuement dans une société qui est complètement fliquée, grosso modo. Donc voilà, je n'y crois pas trop. C'est pour ça que quand quelqu'un vient dire « ma fille de 16 ans a disparu, elle était sur le chemin du lycée, ou etc. C'est pas, il faut mettre en bas de combat, enfin, c'est évident.
Ouais. » Est-ce que vous avez déjà été menacé quand on, comme ça, on prononce des peines très lourdes sur des terroristes, des tueurs, des gens dangereux, etc., pour leur famille même. Est-ce que vous avez déjà eu peur ? Est-ce que vous avez déjà été menacé, vous ?
Alors, j'ai déjà été menacé, pas par des gens à qui j'avais mis une peine, quand j'étais juge d'instruction, simplement des paroles, des choses comme ça. J'ai eu aussi, effectivement, quand j'étais... Mais alors, après avoir quitté l'antiterrorisme en 2016, il y avait deux personnes radicalisées qui s'intéressaient fortement à moi.
Ah, c'est vrai ?
Mon adresse à Lille. Ils étaient en contact avec Rachid Kassim de l'État islamique. Donc là, c'est à Kram. Enfin, la DGSI les a arrêtés, ils sont partis en prison. Donc j'ai eu un projet contre moi. Mais après, des menaces, c'est des paroles. Et les paroles, j'ai jamais pris ça trop...
À cœur.
Dramatique. Parce que. Il y a des gens qui peuvent m'en vouloir. Les gens les plus dangereux, c'est ceux qui disent rien, qui préparent tranquillement leur truc. Quelqu'un qui s'énerve et qui vous menace.
Sur Twitter, qui vous écrit.
Voilà, c'est pas grave. Enfin, c'est pas. C'est
pas agréable, mais c'est
moins bon. Grave. C'est pas agréable, mais c'est moins grave.
Est-ce que vous êtes déjà devenu ami ? Est-ce que vous êtes déjà lié une amitié avec. Quelqu'un au tribunal, quelqu'un que vous avez défendu, une victime.
Oui, je suis ami avec une des victimes de rue des Rosiers. C'est son père qui est mort.
C'est un attentat en 82.
Oui, 9 août 82.
Ouais. 82, c'est ça.
Ouais, ouais. Donc
c'est des juifs
dans une rue mitraillé par un groupe Abou Nidal. C'est toujours à l'instruction, d'ailleurs.
C'était à l'époque, la Palestine... je ne sais plus exactement le nom, ça portait un nom.
C'est Fatah, Conseil révolutionnaire, le groupe Abou Nidal. Ça sera voilà. Plus simple.
C'est les Palestiniens ?
Oui, c'est le groupe Abou Nidal, dissident de Yasser Arafat, OLP, etc., et du Fatah, voilà.
Donc, et le restaurant, c'était un restaurant cachère, un restaurant juif.
Ouais, ouais, ouais.
Joe Goldenberg, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
Et ils sont rentrés, ils ont tué 5 personnes ?
6.
6 ?
6.
Avec, je crois, des grenades, des armes à feu ?
Une grenade, et puis ils ont rafalé. Voilà, à la méthode, j'allais dire, avec moins de morts, mais à la méthode terrasse de novembre 2015. Et il se trouve que j'avais réuni, comme je le fais systématiquement, au tribunal à Paris, les parties civiles, les familles, pour leur annoncer que je lançais des mandats d'arrêt contre différentes personnes dans ce dossier. Et donc j'ai fait la connaissance de ces gens-là. Et après, quand je suis parti à Lille, il se trouve que l'une des parties civiles était lillois. Et il m'envoie un petit mail, on peut prendre un café, ouais. Et puis on a lié une amitié comme ça pendant que j'étais à Lille. Je suis toujours ami avec lui.
Je veux dire, des excuses qui ont été entendues dans les tribunaux.
Ouais.
J'aime bien si vous avez entendu ce genre d'excuses. C'est mon couteau pour mon sandwich le midi, je n'avais rien prémédité. Quelqu'un qui met un coup de couteau à quelqu'un.
Ah, c'est possible, oui.
C'est vrai.
C'est pas forcément absurde, hein. Faut regarder. Effectivement, s'il mange sur son chantier avec son Opinel. Qu'il y a un couteau, ça veut pas dire qu'il est prémédité. Ça dépend des cas de figure.
Ça dépend du couteau aussi.
Ça dépend du couteau.
Les couteaux qui servent pas à manger, ou alors c'est pas pratique le midi. Si je mets ma ceinture, monsieur, je ne peux plus écouter le bruit du moteur.
Ça, j'ai pas jamais entendu un truc.
C'est vrai. Ce qui a été, on a repris les dossiers. Vous avez déjà entendu vous des trucs comme ça, complètement débiles, de gens qui savent pas se défendre.
Ouais.
Au lieu d'avouer, ils vont essayer.
Ouais, des trucs débiles, mais là, j'ai pas en mémoire, mais c'est sûr. Il y a des moments où on rigole, quoi. C'est assez pitoyable aussi par moment.
Entre la prison et le chômage, je n'ai pas eu le temps de travailler, monsieur.
Excellent.
C'est une vraie phrase qui a été dite dans les jeux.
Ouais. Non mais voilà, après peut-être qu'il a de l'humour aussi. C'est possible. On ne sait pas.
Vous en avez qui sont arrogants malgré la présence devant un juge ? Oui.
Ouais. C'est rare parce que généralement on essaie de bien s'en tirer. Donc c'est pas. Mais il y en a qui sont arrogants.
Qui vous parlent mal, etc.
Ouais, alors qu'on va les condamner, on va choisir la peine et. Voilà, je crois que c'est une attitude vis-à-vis de l'autorité d'une manière générale. Ils sont révoltés aussi quelque part, donc ça passe au-dessus ce sentiment-là que la prudence.
Je ne suis jamais allé sur ces sites pédophiles. Ce doit être mon chat qui a marché sur le clavier.
Excellent.
C'est une histoire vraie.
Ça,
hein. Ce sont des vrais. Hein. On a repris une liste de phrases les plus incroyables entendues dans les tribunaux, et c'est vrai. Les gars qui vont dire ça, quand même, c'est fou.
Ouais.
Là, il y a quand même peu de chances que le juge le croie, non, on est d'accord ?
Non, il y a peu de chances.
Je n'ai pas craché sur les policiers, je postillonne beaucoup en parlant.
Ah, ça, je l'ai eu.
Ah, c'est vrai ?
Ah oui, oui.
Ah, c'est ça, c'est les phrases.
Alors, les postillons, c'est alors là.
Ouais, pas... Ah oui, ils vous disent j'ai postillonné ?
Bien sûr, oui, bien sûr. Donc ça, voilà. Il n'y a pas de problème. Ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ouais.
Je vous l'avoue, je me suis trompé, c'est pas lui que je voulais tuer.
Ouais, ça peut, ça peut arriver. Ouais.
Non, celle-là, elle était écrite par les auteurs, mais
ouais.
Une autre qui a été entendue dans un tribunal, J'ai pénétré par effraction dans un pavillon de Conflans à 2h du matin parce que je voulais demander un verre d'eau, j'avais soif.
Oui, c'est ce genre de choses aussi, explication burlesque.
J'ai soif, je rentre chez quelqu'un.
Ah ouais.
Mais ça, ça vous énerve pas, honnêtement?
Non,
vous n'avez pas envie de le mettre deux fois plus cher? Au lieu que le gars dise « j'ai essayé de cambrioler », ok.
Mais non, il ne faut pas mettre deux fois plus cher, il faut mettre ce que ça vaut. C'est pas parce que la personne se défend mal, vous savez, il y a des gens qui se défendent très bien, qui sont très, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, voilà, qu'ils sont mieux que la personne
qui
se défend très mal.
Non, mais tu as fait ça et en plus tu nous prends pour des coups.
Oui, bien sûr. Bon, il faut le dire, ouais, écoutez, on va peut-être. Après, ça dépend comment le dialogue s'instaure aussi un tout petit
vous
peu.
Vous apprenez à être plus patient à force de voir.
Ouais, je suis patient. Je suis patient parce que.
Et vous n'avez jamais eu envie de. D'en mettre une à quelqu'un qui est insolent et vous, dans le bureau, en tant que juge d'instruction, qui vous raconte n'importe quoi ou qui vous parle mal. Il n'y a pas des moments où on a envie de...
Non, alors, c'est très rare. D'abord, c'est assez rare qu'on parle mal à un juge, ça se passe vraiment mal. Passe vraiment... Moi, je vais vous dire, c'est très simple. Quand vraiment ça tourne n'importe comment, c'est, je dis à l'escorte, bah, vous le sortez là, qui se calme. Et puis, il reste dans le couloir 15-20 minutes, tant qu'il se calme. Hein. Et après, je vois avec son avocat, etc. Et si ça devient, si c'est devient complètement impossible de faire l'interrogatoire, eh ben écoutez, c'est pas grave, monsieur. Hein. Vous retournez en maison d'arrêt, je vous reconvoquerai, on recommencera plus tard.
Hein. Il y a toujours une escorte policière quand vous voyez dans votre bureau.
Oui,
vous restez jamais tout seul.
Des entraves, les gens qui sont en détention provisoire hein, uniquement, parce que vous pouvez avoir des gens qui arrivent devant vous qui sont libres, mis en examen, même devant un
ministre. Ah oui, d'accord.
Bien sûr. Mais ils sont désentravés, les gens qui sont détenus sont désentravés, que ce soit à l'audience, que ce soit dans un cabinet de juge d'instruction.
Ça veut dire quoi, mise en examen? Parfois, on voit machin mise en examen.
C'est inculpé. Par exemple, officiellement, donc, je vais officiellement vous reprocher d'avoir volontairement donné la mort à madame un tel, tel jour, à tel endroit.
Donc c'est mauvais signe?
Bah oui, ça veut dire que j'estime qu'il y a des indices graves et concordants pour vous mettre en examen. Ça ne veut pas dire que vous allez être renvoyé à la fin de l'instruction devant la cour d'assises, c'est qu'au moment de cette enquête, j'essaie de vous donner un statut particulier qui vous donne des droits aussi. C'est-à-dire le droit d'avoir un avocat, accès à la procédure, toutes ces choses-là.
D'accord.
Par rapport à un témoin.
Mise en examen, ça veut dire qu'il y a quand même... Ouais, donc
ouais.
Et l'ouverture, quand
c'est
on
ce
dit...
qu'on appelait l'inculpation avant.
D'accord.
On a changé parce que l'inculpation, c'était trop péjoratif.
Donc, c'est qu'on sait que c'est lui, dit, en gros, c'est qu'on sait que c'est vrai.
On dit qu'inculpé, c'était trop péjoratif par rapport à la présomption d'innocence, donc ils ont changé en mettant mise en examen. Mais mise en examen, ça veut dire que le juge, à un moment donné, estime qu'il y a assez d'éléments qui rendent plausible le fait qu'il ait commis
des faits. Mais c'est pas pour ça forcément qu'il est coupable,
non,
définitivement.
Tout à fait, on peut faire un non-lieu à la fin, en disant qu'il n'y a pas de charge suffisante, alors qu'il avait été mis en examen.
Et alors, c'est intéressant pour eux, même tous ceux qui c'est le but, hein, c'est de comprendre les mots qu'on entend souvent. Parfois, on entend, il y a prescription. Une affaire, tiens, il n'a pas pu être jugé, il y a prescription. Sur les vieilles affaires, du coup, qu'est-ce que ça veut dire exactement, prescription?
Alors, à un moment donné, si beaucoup d'années sont passées et qu'on n'a rien fait du tout, que la justice n'a rien fait du tout, les faits vont se prescrire. Bon, la prescription classique pour un meurtre, c'est 10 ans.
Mais, ça veut dire que 10 ans après...
Alors, pas tout à fait, parce que si vous avez enquêté, ça interrompt la prescription, ça la fait repartir de 10 ans de plus. Imaginez 1990, un meurtre. Une ouverture d'information en 91, et je fais des actes, j'entends des témoins, il y a des investigations, je fais des commissions rogatoires aux policiers, etc. Et l'enquête se poursuit à certains actes, jusqu'en, par exemple, 98. Plus d'actes à partir de 90, les 10 ans vont partir de 1998. Pas du
même. Et par exemple, vous retrouvez le tueur en 2009.
Oui, oui, mais si ça n'a pas été prescrit, oui, alors si vous dites si on n'a rien fait du coup.
On enlève la prescription.
Ben, mais... Là, il est prescrit, ben, c'est prescrit, c'est terminé.
C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire contre lui.
Non, tout à fait.
Et ça vous est déjà arrivé?
Alors, il y a parfois, ce qui m'est arrivé, c'est que parfois certaines infractions soient prescrites et pas d'autres. Parce que le crime, alors les choses ont changé, les règles ont évolué, parce qu'on veut de moins en moins de prescriptions.
Ah oui.
On sait déjà que, par exemple, pour tout ce qui est agression sexuelle et viol, ça ne part que de la majorité quand les faits ont été commis alors que la victime est mineure. Et puis ça a été allongé 20 ans, 30 ans, en matière de terrorisme, c'est 30 ans. Donc ça, c'est pas pour tout. Mais ce qui m'est arrivé, avant ces nouvelles lois, en matière de terrorisme, c'est de prendre un dossier comme Copernic ou Rue des Rosiers, et de constater que le crime n'était pas prescrit, il y avait eu des actes interdictifs de prescription tous les 10 ans. Par contre, les délits connexes l'étaient, l'association de malfaiteurs, par exemple. Ce qui est embêtant, parce que vous devez trouver que ceux qui ont fait l'attentat, les autres qui sont autour,
Comment ça se passe quand ils changent la loi et qu'ils rallongent le délai de prescription? Alors, entre deux, c'est-à-dire que s'il y a un mec qui avait fait un meurtre avant et il restait six mois, c'était fini, par exemple. Si vous rallongez...
Genre, regardez, 1990, 10 ans, disons, hein, pour un meurtre. Il va y avoir une loi qui va arriver en 99 qui va dire, maintenant, c'est plus 10 ans, c'est 20 ans. Et bien, toutes les prescriptions qui sont en cours, qui ne sont pas acquises, et bien, le nouveau délai s'applique.
Mais donc là, par exemple, le gars qui a fait le truc en 99, c'est fini. En 90, c'est fini. Celui qui a passé 10 ans.
Non, parce que si la loi a changé avant les 10 ans, eh ben la prescription de 20 ans lui est applicable, elle n'est pas acquise.
Mais si c'est fait après, c'est bon.
Ah oui, voilà. Si la loi, par exemple,
il peut pas revenir.
Lui 1er février 90, 1er février 2000, mais si jamais la loi est passée avant le 1er février 2000, eh ben c'est pas prescrit.
Vous pouvez pas faire sauter la prescription de quelqu'un, en gros.
Si elle est acquise, elle est acquise. Si elle n'est pas encore acquise au moment où la loi change et l'allonge, ça s'applique au gars.
C'est un merdier, la justice, quand même. Parce que c'est au cas par cas, il y a des gars qui disent « Ouais, mais la loi, elle est passée, machin. »
Alors, en dehors de ça, il faut quand même...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comprendre que quand les faits sont très vieux, c'est difficile d'avoir des preuves aussi. Donc, de toute façon, il faut se méfier. Le risque d'erreur est important, parce que les témoignages, les choses comme ça, au bout d'un moment...
Quelqu'un a dit dans un tribunal, pour finir petits exemples, « Je ne filmais pas du tout cette fille aux toilettes, monsieur le juge, je cherchais du réseau pour mon téléphone portable. »
Ouais.
C'est une histoire vraie.
Ouais, mais j'en
c'est fou, pas. Quand même. Il y a des gars, ils sont arrivés avec le juge, ils ont mis leur téléphone, ils ont cherché du réseau vers le bas, là. C'est incroyable. Un demi de kilo de cannabis, oui, mais c'était pour mon tonton, c'est pour sa conso personnelle, ça le soulage. Il a mal au genou.
Ouais. Mais ça, sur la consommation de Camus, c'est les douleurs qu'on a. Voilà, un demi-kilo, c'est un peu difficile.
C'est une grosse consommation perso.
Bon, il y en a qui font des achats, voilà, qui veulent...
Je ne cherchais pas à voler la voiture, madame la juge, mais à fermer la fenêtre parce que le quartier est mal famé, vous savez. C'est incroyable.
C'est pas mal.
Vous devez en avoir quand même des anecdotes de... C'est un puits sans fond.
Ouais, mais regardez, parfois, il y a des choses que je n'y ai pas cru du tout, ça m'a fait rigoler, mais en matière de terrorisme, je me souviens d'un gars qui revenait de Syrie, qui était parti de Syrie et qui s'était fait soigner à l'arrivée parce qu'il avait, il avait pris une balle dans le ventre et une dans la cuisse. Et donc, on pensait que c'était au combat, évidemment. Et il nous dit, non, j'étais bien avec l'État islamique, c'était pas au combat, je voulais déserter l'État islamique et c'est ma femme qui m'a tiré dessus pour m'empêcher de déserter.
Mais non.
Alors, on ne l'a pas cru, évidemment, on s'est dit, sous nous. Mais après, on a arrêté d'autres personnes de Raqqa, les Belges aussi, et qui ont raconté la même histoire. On leur montrait la planche photo avec tous nos gens francophones, les Belges, et puis ils nous disaient, bah, celui-là, je l'ai vu à tel endroit, tel endroit. Et donc, 3-4 personnes ont dit la même histoire, et en fait, c'était vrai. Comme par moments, quand c'est très, très lourd et ça paraît invraisemblable, parfois, ça peut être vrai aussi, il faut faire gaffe.
Vous passez au parquet antiterroriste en 2000, pile, en charge de l'islam radical, juste avant les attentats de 2001. Ouais. C'est à vous de vous en occuper. Est-ce qu'il y a une résonance en France ?
Alors, il y a une résonance dans...
Je parle en termes justice.
Alors, d'abord, il y a deux choses. D'abord, on a fait effectivement, sur le papier, une enquête sur le World Trade Center parce qu'on avait d'abord Moussaoui, qui était en France... qui avait été arrêté...
C'était à Narbonne, dans un lycée.
Oui, on avait prévu les Américains que c'était bizarre parce qu'il avait fait un camp d'entraînement avec Al-Qaïda, qu'il était...
Zakarias Moussaoui.
Oui, était parti aux États-Unis. On avait prévenu les Américains, méfiez-vous. Bon, ça, c'était au mois d'août. Et on a aussi eu une ouverture d'information sur la France parce qu'on avait quelques Français qui étaient dans les tours. Donc, quand il y avait des victimes françaises à l'étranger, voilà. Mais on avait surtout beaucoup de dossiers sur les filières Ben Laden déjà, depuis pas mal de temps. On avait déjà travaillé, donc on était vraiment complètement dedans. Ce qui s'est passé à partir de septembre 2001, c'est surtout une recrudescence des projets d'attentats en 2002-2003, et puis surtout une espèce de, pas de parano, mais alors que personne considérait la menace islamiste vraiment comme très importante avant 2001, bah, tout le monde s'est mis à la considérer comme majeure après septembre 2001. C'est de passer devant les Basques et les Corses, si vous voulez, à la section.
Ce que vous dites dans votre livre, hein, je vous mets les liens d'ailleurs des livres de Marc Trévidy qui s'appelle « Terroriste », le livre est sorti en 2013, hein, celui-là, ça fait longtemps. Et vous disiez que la France ne prenait pas la menace islamiste au sérieux. Ça a changé depuis ?
Oui, bien sûr, mais même le 11 septembre 2001, il y avait quand même pas mal d'écho, de gens qui disaient « Oui, mais ça concerne les Américains, Al-Qaïda s'en prend aux Américains, ça ne veut pas dire qu'on soit, nous, menacés directement. » C'était assez étonnant. Alors qu'on a eu vraiment des projets d'attentats en 2002, hein, chez nous, très clairement.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait. Courneuve-Romainville, avec des produits chimiques, des trucs, le réseau Bégal. On avait eu quand même projet d'attentat lors du millénium, la cathédrale de Strasbourg, le marché de Noël de Strasbourg, hein, fin 99, début 2000. Donc on était ciblés aussi par Al-Qaïda. Mais il y a eu toujours ce... Vous savez, tant que ça ne pète pas chez vous...
On se dit ça arrive qu'aux autres.
Or, le problème qu'a eu la France, c'est que depuis Port-Royal, 3 décembre 96, dernier attentat qu'on avait eu islamiste, jusqu'à Mera, on a évité tous les attentats sur le territoire français. On a eu beaucoup de Français tués à l'étranger par des actions terroristes islamistes, mais en France, on a réussi, parfois avec de la chance, parfois quand même, aussi du talent, j'allais dire, mais quand même de la chance. Et donc, du coup, les gens, ils n'étaient pas très... Ça fait pas boum. Hein. C'est assez pervers, si vous voulez.
Vous avez été surpris par les attentats en 2015 ?
Non. Non. Je crois que j'ai assez tiré la sonnette d'alarme, d'ailleurs, avant de partir, et juste après être parti pour dire qu'on allait se prendre des gros attentats.
Ah, c'est vrai, vous en doutiez, vous ?
Ah oui, complètement, ouais, complètement. Mais déjà, j'avais eu dans mon bureau des gens du groupe d'Abaoud, hein, dont un le 15 août, qui avait été envoyé et qui m'avait dit que... Normalement, ils étaient censés faire un concert de rock. Donc, ils ont été vraiment dedans. Hein. Sauf que c'est vague. Ils n'en savaient pas plus, lui, à l'époque. Et moi, de toute façon, je suis parti fin août 2015. Donc, avec ça, je risquais pas de...
Juste avant le...
Ouais. Et j'avais, en partant, j'avais vraiment prévenu. J'avais même fait une interview dans la presse pour dire que là, on est débordé, on ne fait plus face du tout. Et à partir du moment... Vous savez, c'est très concret. Hein. Si vous n'avez plus les moyens de surveiller les gens qui reviennent, ou même de savoir qui est parti et qui revient, donc, vous ne les surveillez plus, donc ils peuvent faire des choses. Et comme vous savez qu'à Raqqa, il y a beaucoup de Français qui voulaient revenir en France pour faire des attentats, les franco-belges, parce que ce n'était plus la même génération, c'est des gens qui partaient et ils voulaient venir se venger de la France. Donc on avait vraiment un fond de haine contre la France, qui était très, très fort, hein, qu'on voyait dans les discours, dans les gens, la façon dont ils parlaient sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., quand ils étaient là-bas. Qui brûlaient leur passeport français ou leur papier français. On voyait très bien qu'on était dans le collimateur.
Ah, waouh. Et vous tirez la sonnette d'alarme et vous n'avez pas plus de moyens ?
Les moyens, ils sont arrivés après le 13 novembre 2015. Moi, j'étais parti. Non, mais ça, je crois que ce n'est pas propre à la France. Je crois que tout pays fonctionne un peu comme ça. Il faut vraiment que ça fasse boom, qu'il y ait des attentats majeurs pour que vraiment il y ait une prise de conscience totale et qu'on change de paradigme.
Non, mais il y a des gens qui meurent.
L'argent est à couler à flot après.
Oui, mais c'est trop tard.
C'est trop tard. Voilà.
C'est mieux que rien, mais il y a quand même des gens qui sont morts.
Bien sûr. Alors, c'est à la fois trop tard, mais du coup, il y a eu la création du parquet national antiterroriste, 26 magistrats. Je précise qu'en 2000, quand je suis arrivé, on était 4. C'est juste pour que vous voyez...
La différence.
La différence. Mais du coup, ça existe, ça a le mérite d'exister. Et pour ce qui est de la DGSI, ils ont vu leur effectif aussi bien augmenter.
Ouais. Parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde qui bossait sur ces sujets-là avant.
C'est-à-dire qu'il y avait du monde pour lutter, pour surveiller, je dirais, 100, 150 personnes efficacement. Mais comme on en avait 3000 à surveiller en 2014-2015...
Et là, maintenant, ça doit être beaucoup plus que ça.
Alors là, il y en a beaucoup plus à surveiller, mais il y a eu des augmentations quand même très, très importantes d'effectifs.
Vous vous occupez du gang de Roubaix à l'époque. Ouais. Qui c'était, le gang de Roubaix, pour ceux qui n'ont pas entendu parler ? Moi, je n'en avais pas entendu parler, du gang de Roubaix.
Alors, le gang de Roubaix, historiquement, donc, c'est surtout Dumont et Cazes qui sont allés avec d'autres, il y avait une trentaine de Français au total, qui sont allés combattre les Serbes en Bosnie. Mais la Bosnie avait fait appel à donc des Moudjahidines, des gens, des salafistes djihadistes, et avait créé un bataillon spécial, le bataillon des Moudjahidines de Zenica, avec la bénédiction de tout le monde, refaisant un peu l'erreur des Américains face aux Soviétiques en laissant Ben Laden, etc., faire cet appel d'air de salafistes. Et donc, ils ont combattu là-bas. Et évidemment, à la fin, après en décembre 1995, quand les accords de Dayton ont été signés, qu'il y a eu la paix, bah, eux, ils voulaient créer un État islamique là-bas. Bah, ils se sont fait jeter par les Bosniaques qu'on ne voulait pas, et se sont retrouvés à nouveau en Europe, dans leur pays ou en Turquie, et ils ont commencé à vouloir faire le djihad chez eux. Et le gang de Roubaix, c'est typique, en 1996, ils ont commencé par braquer, faire pas mal de braquages pour avoir de l'argent, ils ont acheté des armes en Bosnie avec ça, c'est un gros marché, et ils ont fini par une tentative d'attentat la veille du G7 à Lille. Une bombe qui n'a pas explosé, des bonbonnes de gaz dans une bagnole. Et après, nous, ça nous a intéressés au niveau antiterroriste, pas tout à fait à cause du gang de Roubaix, mais parce que on a travaillé sur un réseau de faux papiers qui nous a amenés au Canada, place de la Manicorne, sur un groupe qui s'appelait le groupe Fatih Kamel, que des gens qui avaient été en Afghanistan, puis après en Bosnie, donc des djihadistes professionnels, et grâce à des faux papiers, ils s'étaient regroupés au Canada, comme ça, donc c'était très inquiétant. On a travaillé là-dessus, on s'est rendu compte qu'ils préparaient un attentat.
Là-bas ?
Oui, aux États-Unis.
Ah oui, oui.
Et d'ailleurs, un des membres de ce groupe, Ahmed Ressam, est parti avec une bombe de 60 kilos et a été arrêté à la frontière à Port Angeles.
Oh là là.
Voilà. Mais les Canadiens, quand on leur avait dit « Attention, ça chauffe votre groupe, la place de la Malicorne », ils avaient refusé de perquisitionner, on n'avait pas assez de preuves, soi-disant, pas assez d'éléments. Donc, heureusement, on a prévenu les Américains.
Les Canadiens, par contre,
les Canadiens sont fait engueuler par les Américains, mais voilà, c'est typique.
Comme ils n'ont pas voulu, vous avez été obligé de dire de l'autre côté de la frontière, les gars, ça va arriver.
C'est difficile. Le Canada est un pays très protecteur et c'est très difficile. Eux aussi n'avaient jamais eu d'attentat, etc. Donc, vous savez, quand vous leur ramenez la construction qu'on a, c'est pas comme en France, une perquisition, elle se fait comme ça en France. Au Canada, vous savez ce qu'il faut faire ? Un affidavit de 100 pages, expliquer qu'est-ce qu'on imagine pouvoir trouver là, en quoi, etc. C'est un truc qu'on présente devant un juge qui met son tampon. C'est très compliqué.
Est-ce que ça peut réarriver, les attentats, là, vous avez vu, ça s'est un peu enchaîné, ouais. Il y en a eu pas mal. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que vous pensez que ça va se tarir à un moment donné ? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste maintenant avec du recul ?
Oui, mais alors, tout dépend ce qu'on appelle attentats. Bon, les attentats individuels, j'allais dire, ou les micro-groupes de gens surexcités, bien sûr. Quelqu'un qui sort un couteau et qui fait n'importe quoi, ou même une arme à feu, ça peut toujours arriver.
Et puis c'est invisible à l'avance.
Oui, là, invisible, ça dépend de qui. Chaque cas, il faut regarder. Il y a des gens qui sont.
Là, le mec d'Arras, c'était en l'occurrence.
Oui, quand même, il était. Voilà, il y en a qui sont quand même bien.
Il y a des indicateurs.
Etc., voilà. Mais parfois, il n'y en a pas. Par contre, un attentat très structuré, avec des équipes venant de l'extérieur, ça me paraît beaucoup trop tôt. Ils ne sont pas assez puissants. Vous savez, l'expérience de l'antiterrorisme montre que pour faire des attentats hors de chez soi, un groupe doit être déjà très fort là où il est. Les GIA ont fait des attentats en France quand ils étaient très forts en Algérie. L'État islamique a fait des attentats en France quand ils étaient très forts en Syrie, Irak. Al-Qaïda, c'est pareil, parce qu'on les laissait tranquilles en Afghanistan, qu'ils ont fait le World Trade Center. Voilà, donc pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore mûr pour des choses d'envergure. Mais ça reviendra, c'est comme ça.
Ah oui ? Vous êtes plutôt ni optimiste ni pessimiste.
Il faut. On a l'avantage maintenant d'avoir une structure quand même très forte avec beaucoup d'effectifs et de moyens. C'était pas le cas en 2015.
Vous dites dans les interviews que vous n'aimez pas donner les noms des terroristes. Mm-hmm. Pour quelle raison c'est ?
Bon, alors ça dépend quel style d'action terroriste, mais c'est vrai que ça. Il y a certains terroristes qui agissent un peu, vous savez, comme les tueurs de masse aux États-Unis. Ils veulent aussi qu'on parle d'eux dans leur action d'éclat, qui est suicidaire aussi, d'ailleurs, hein, d'une certaine façon. Donc, l'effet d'entraînement peut être gênant. Si quelqu'un voit qu'on parle énormément de quelque chose qui ne devrait pas être autant médiatisé, c'est-à-dire quelqu'un qui sort, qui a des problèmes, qui sort avec son couteau, qui poignarde tout le monde. Ça va faire tellement, si jamais il a dit Allahu Akbar avant, ça va faire, tous les médias vont se jeter dessus. Si jamais c'est du droit commun et qu'il a poignardé quelqu'un, plus personne n'en parle au bout de 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le problème de mettre en exergue son nom, etc., c'est que ça peut créer du mimétisme, un espèce d'entraînement, une galvanisation de gens qui n'ont pas besoin de grand-chose pour faire la même chose, justement. Donc il y a un petit danger, là.
Vous avez bossé sur des affaires comme les moines de Tibérine. Alors ça, c'est en Algérie, hein, c'est ça ?
Ouais.
En 2007, c'est là que vous allez vous en occuper. Ça date de 96, donc c'est beaucoup plus vieux. C'est des moines qui ont été, c'est sept moines, je crois, sept, hein, c'est ouais. ça, qui ont été enlevés et tués. Vous avez bossé sur l'affaire 10 ans plus tard. Pourquoi ? Pour essayer de trouver les coupables qui n'avaient pas été encore débusqués ?
Pour essayer de comprendre. C'est toujours à l'instruction, c'est toujours point d'interrogation. Il faut bien savoir qu'au début, il n'y avait pas eu d'enquête du tout. Et puis, le père Veilleux et l'une des familles des moines sont reçus par civil devant le juge d'instruction, pour comprendre. Parce que le père Veilleux, quand il était allé en Algérie pour les obsèques des moines, on avait omis de lui dire qu'on n'avait pas trouvé les corps qui avaient les têtes dans les cercueils. Il avait trouvé ça bizarre. Il avait fait ouvrir les cercueils, il y avait du sable et puis les têtes, simplement. Donc c'était un peu curieux, puisque l'autorité algérienne avait omis de dire qu'il n'avait retrouvé que les têtes et pas les corps. C'était assez curieux. Donc, jamais eu d'autopsie, justement, des têtes. Tout ça, ça n'avait pas été fait. On nous dit, c'est GIA, point. C'est très curieux, et surtout que nous, ce n'était pas satisfaisant, puisqu'on n'avait même pas fait le minimum. Enfin, quand il y a 7 morts, au moins faire une autopsie, c'est ce qu'on a. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu à tout prix aller en Algérie pour pouvoir le faire. Ça a été très, très compliqué. Et on a enfin pu exhumer les têtes et faire les autopsies. Et donc, il y a eu ce rapport d'autopsie. Et point d'interrogation depuis, on n'a pas plus de précision sur ce qui s'est passé, puisque ce sont des décapitations post-mortem. C'est-à-dire, les gens n'ont pas été tués en étant décapités.
Est-ce que vous avez déjà eu des échanges intéressants avec des terroristes ?
Ah oui, oui. Oui.
Pour avoir des infos, pour... avoir des infos un peu plus privées.
J'ai parfois, et parfois, ça arrive assez souvent, le courant passe, hein, finalement, on est à la même distance que vous et moi, là. On discute, si on prend plusieurs heures, et si c'est quelqu'un agréable, il y en a. Hein. J'en ai eu, c'était très agréable même. J'ai fait des dizaines d'interrogatoires avec des gens de haut niveau. Il y avait l'administrateur du site Choumouk al-Islam, qui était la centrale médiatique d'Al-Qaïda, qu'on avait eu la chance d'arrêter à Toulon.
En France ?
Il était passionnant. D'abord, il était droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il avait sa vision politique, effectivement, il faut que la charia soit appliquée sur la terre entière, et patata, quoi. Enfin, donc, c'était clair. Et le terrorisme est un moyen, on peut appeler ça terrorisme si on veut, mais enfin, c'est un moyen pour y arriver. Et donc, on discutait, il reconnaissait, il ne tournait pas autour du pot, on pouvait parler de dogmes, de théologie, des différents mouvements, de géopolitique. Et c'était passionnant, vraiment. Ça passionnait son avocat aussi. C'est pas toujours à couteau tiré. Enfin, c'est pas une bonne expression. C'est pas terrible. On a trouvé une autre expression.
Lui, il est parti en prison après.
Ah oui, il était en prison. Pendant tous ses interrogatoires, il a été condamné. Voilà, ça c'est sûr.
C'est quoi, c'est une grosse peine, par exemple, qu'il a pris, lui ?
Non, il était il a dû prendre de 9 ou 10 ans, il était qu'en association de malfaiteurs délictuels à l'époque. Il n'était pas mouillé dans un projet d'attentat directement.
Mais il faisait juste la com, en gros.
Oui, mais c'est de la com très très importante. Vous savez que les...
Non, évidemment, mais je veux dire, il avait tué personne, lui.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi, la propagande, ça sert à recruter. Mais il y a aussi toutes les messageries privées, les échanges de messages entre des groupes terroristes qui se servent des forums, de tous ces sites-là.
Il y a l'émir blanc, la filière d'Artigat s'appelle, c'est un Olivier Corel, c'est ça, qui est un monsieur avec une grosse barbe, qu'on a déjà vu dans pas mal de reportages d'ailleurs, avec des reportages qui sont essayés de le filmer de loin toujours. Vous avez bossé dessus ?
J'ai eu en face de moi lui aussi. Hein. On a démantelé la filière Toulouse-Artigat, 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement. Et Olivier Corel, je l'ai mis en examen, mais j'ai fait non-lieu au total. Il était mis en cause par personne, il n'était pas parti en Syrie, lui c'est les premières filières irakiennes. Et les gens qu'on a récupérés qui sont partis en Syrie, dit que donc il ne les avait pas incités ni aidés, donc on n'a pas pu l'accrocher en fait.
Jamais il est en prison lui ?
Si, il était en détention provisoire, mais il n'y a pas eu d'éléments suffisants pour l'accrocher dans l'assaut de malfaiteurs terroristes, quoi. Mais autour de lui, il y avait des gens très intéressants.
Comme qui ?
On a retrouvé Sabri Essid, qui a rejoint l'État islamique, qui est célèbre pour une vidéo qu'il fait avec un petit môme de sa famille, 12-13 ans, là, au moment de l'exécution d'otages Donc voilà. Il y avait les frères Klein, dont Fabien qui a revendiqué le 13 novembre 2015 dans l'État islamique. Enfin, bon, on est quand même dans les... Thomas Barnoin aussi. Ils sont tous partis après.
– Il n'y a pas Mera qui était là-bas ?–
Mera, il était trop petit, Mohamed. Mera, quand moi j'ai eu cette histoire-là, il était mineur. Donc, il était dans la famille Mera, réglisé et tout, mais il n'était pas encore, il n'était pas passé entre mes mains.
– Vous l'avez déjà rencontré, lui ?
Non, parce qu'il était, on avait dû le mettre comme mineur en garde à vue, mais voilà.
Parce que c'était en 2012, donc vous étiez encore à l'époque.
Oui, mais c'était plus Artigat, voilà, c'était 2006, 2007 à peu près.
Non, mais là je parlais de Mohamed Mera, c'est 2012. Vous étiez au même moment, mais là, lui c'était Montauban-Toulouse.
Oui.
Vous étiez à Paris.
Oui, tout à fait.
C'est ça,
oui.
Vous étiez par quel terroriste à Paris. Vous n'êtes pas sur l'affaire à l'époque.
Non, c'est des collègues qui ont eu ça. Qui ont eu l'affaire Mohamed Mera. Alors moi, quand l'affaire éclate, je suis aux États-Unis en commission rogatoire internationale, et c'est vrai que je n'ai pas été désigné dans le dossier.
Pourquoi ?
J'étais sur des auditions dans Karachi, aux États-Unis. On se déplaçait beaucoup à l'étranger, donc on avait beaucoup de missions à l'étranger, donc on n'est pas toujours sur le territoire national.
Certains disaient que Mohamed Mera était un agent double qui a été manipulé par les RG.
J'utiliserai pas ce terme. D'abord, en 2012, il n'y a plus les RG. Ça a fusionné en 2009, DST et RG. C'est devenu la DCRI à l'époque. Et après, ça deviendra la DGSI. C'est juste pas d'importance. La DCRI a débriefé Mohamed Mera. C'est-à-dire, comme il était allé dans des zones intéressantes pour eux, et on le soupçonnait d'être allé au Waziristan, zone frontalière pakistano-afghane, où il avait peut-être vu quelqu'un qu'on cherchait beaucoup, Mouazir Salaoui. Eh bien, ils ont essayé, comme ils font avec certains, qu'ils pensent ne pas être trop engagés, de le retourner. Mais ils ne l'ont pas fait, en fait. Il a donné le change, et puis point. Donc, il n'est pas agent double, dans le sens où ils ont... Ça arrivait, les débriefings, essayer de voir, de tester quelqu'un pour voir s'il y a une manière de mettre dans le dispositif à l'étranger là, quelqu'un qui travaille pour. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient arrivés à ce stade-là.
D'accord.
Voilà, la nuance.
Nordal Lelandais est devenu papa, là. En prison, ouais. Vous avez vu.
Non.
C'est quoi votre avis là-dessus ? Est-ce que vous avez un avis sur le fait que les tueurs en série comme ça, et autant où des terroristes d'ailleurs reçoivent des lettres de fans, se marient ?
Ah ben alors, moi j'ai jamais compris l'attrait de certaines femmes pour les criminels. C'est une vérité, hein. C'est assez étonnant.
Il y en a
qui adorent les tueurs en série, par exemple.
C'est étonnant. Nordal Lelandais, apparemment, il y a plusieurs copines.
Oui.
Il a des rapports le week-end, il y a des femmes qui viennent.
Oui, il y a une fascination du criminel. Il y a une fascination du crime d'une manière générale, dans nos sociétés. Et parfois, ça tourne à la fascination du criminel lui-même, voire à la relation amoureuse qui est déviante quelque part. Parce que derrière, c'est l'image du crime. Et c'est la fascination du mal. Hein.
C'est la fascination, c'est l'inversion des valeurs.
Oui, alors c'est peut-être l'adrénaline, se mettre en danger quelque part, toucher l'interdit, toucher le feu.
Ce n'est pas des femmes qui pensent qu'elles vont sauver ce gars-là. Ce n'est pas le cas de Monique Olivier aussi, qui est sortie avec pensant l'aider au départ, dans un journal,
sûr.
Je ne sais pas quoi.
Oui, mais Monique Olivier, pareil, ça a été la même démarche au début. Maintenant, est-ce que vous pensez le sauver, en tout cas, ça a été pire après. J'ai du mal à... Je ne sais pas, vous savez, c'est complètement... pour moi, c'est incompréhensible.
Vous lisiez les lettres que recevaient les terroristes, par exemple, pour voir ce qu'ils recevaient ?
Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, on en faisait traduire beaucoup, mais ce n'était pas forcément en français, donc c'est un gros boulot. Parce qu'on leur dit, d'ailleurs, devant nous... Écoutez, moi je ne le cache pas, puisqu'ils le savent, tout ceci en maison d'arrêt. Donc je leur dis toujours, vos courriers ils vont être lus, donc s'il vous plaît, parlez pas de l'affaire, etc. Voilà, ça ne sert à rien.
Sinon, vous ne le transmettez pas.
Oui, ça va être saisi. Ou alors parfois on le transmet, on fait une copie. On a intérêt à ce que ça soit transmis.
Ah oui, d'accord, j'imagine.
C'est pas toujours.
Il faut me laisser, il faut partir.
Oui, voilà. Parfois, on ne saisit pas l'original, on fait une copie simplement et on laisse passer l'original. Ça dépend des objectifs qu'on peut avoir. Mais donc, je leur demandais, et surtout si vous écrivez, essayez d'écrire en français plutôt, etc., parce que ça nous fait des coups de traduction. C'est cache, hein. Si vous voulez, soyez sympa. Voilà. Et puis, généralement, ils admettaient tout à fait le truc. Hein.
Est-ce que parfois, des terroristes n'ont pas la tête de l'emploi ? Est-ce que c'est invisible si on s'imagine un gars forcément qui a une tête méchante dans l'inconscient, etc. Est-ce que vous pouvez voir parfois des terroristes qui étaient plutôt
Ah ben moi j'ai vu des vrais playboys terroristes. Hein. Je me souviens de Fateh Kamel dans cette histoire avec Ahmed Ressam, etc. Voilà, le playboy à l'italienne, hein, j'allais dire. Hein. Et voilà, non, il n'y a pas de... Et en tout cas, ce que je veux dire par là, évidemment, il y a qui est là avec les yeux comme ça, de fou, avec la
barbe, il y en a.
Va s'inquiéter, ouais. Mais simplement, ce n'est pas toujours les plus dangereux. Quelqu'un qui arrive complètement à donner le change, enfin, j'ai l'impression que Mohamed Merah, il arrive complètement à donner le change, hein, son truc comme un jeune de banlieue, quoi. Il était... Voilà, donc ce n'est pas évident.
Comment on devient fiché S?
Ah, ça dépend. Il y a plein de catégories. Hein. Ah, c'est vrai. Pas très technique, mais il n'y a pas une fiche ES. Il y a des catégories de fiche ES. C'est pour ça que c'est toujours gênant d'entendre des simplifications à l'extérieur.
Bah oui, moi, je vous pose des questions, je vois la télé, en fait, pour essayer de simplifier, pour toujours comprendre
vous
les
sujets. Vous êtes les parents d'un jeune converti, mais vous êtes catholique pratiquant, j'allais dire. Bon, mais par contre, bah, c'est votre fils. Alors, même s'il a rejoint un groupe terroriste, eh ben, vous avez envie d'avoir des contacts avec lui, des nouvelles, etc. Eh ben, on va ficher être ses parents. Ce n'est pas du tout qu'il soit terroriste. C'est qu'on a besoin de les suivre. Par exemple, quand ils se déplacent pour une frontière, parce que c'est peut-être un rendez-vous avec leur fils. Voilà. C'est juste pour que les services sachent qu'il faut nous informer des déplacements, des choses suspectes concernant ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont terroristes nécessairement. C'est pour donner un exemple.
Hein, on le sait si on est fiché S?
Ah ben non, on ne va pas le dire normalement. Mais il y en a qui le savent, évidemment, c'est forcé. Si vous êtes dans un voilà, salafiste plus, et puis en contact avec des terroristes, ou vous avez déjà été poursuivi pour terrorisme, vous savez que vous l'êtes. Là, vous l'êtes vraiment. Mais il y a un fichier radicalisé, hein, ce n'est pas la même chose hein, que fiché S. C'est un peu complexe de simplifier ce que je veux dire.
Par exemple, sur une chaîne d'info, on entend, tiens, machin, fichier S.
Oui, il y a des fichiers S parce qu'ils sont eux-mêmes suspectés éventuellement d'être une menace terroriste. Et puis, il y a des fichiers S qui sont l'entourage. Et on a besoin de suivre un peu ce que ces gens font parce qu'ils peuvent être en contact avec un fichier S radicalisé, dangereux. Quoi.
Est-ce qu'ils reçoivent des cadeaux, les djihadistes? Vous disiez qu'ils reçoivent des lettres, mais est-ce que parfois, ils reçoivent des cadeaux en prison?
Bah, d'abord, tout n'est pas autorisé en prison. Il y a certaines choses qu'on doit cantiner, acheter directement. Bah, voilà. Mais on peut recevoir un livre, des choses comme ça, effectivement. Ouais, tout à fait.
En janvier 2015, il y a l'attentat contre Charlie Hebdo, 7 janvier. Vous demandez à ne pas être sur le dossier.
Oui.
Pourquoi?
Ah bah ça, c'était une discussion entre Prédor et moi. C'est que Franck Brinsolaro, qui a été le chef de mon équipe de garde du corps pendant 6 ans et demi, et a été tué.
C'est le garde de Charlie Hebdo?
De Charbes. Il faisait la protection de Charbes.
Là-bas, ouais.
Donc il était là-bas, donc il a été tué. Avec lui, j'étais allé partout dans le monde, j'allais dire. On avait fait des. Je vous dis, la moitié de mon temps, c'était à l'étranger quand même. Mais on est allé au Rwanda, au Burundi, enfin au Liban, voilà, plein d'endroits. Donc on avait créé des liens d'amitié ça paraissait normal de C'est une question d'impartialité, c'est toujours pareil.
Ça aurait pu être évité, Charlie Hebdo, d'après vous?
Alors, oui, d'après moi, oui. D'abord, il s'est passé une chose, c'est que il y a eu dans le magazine Inspire, c'était le magazine de l'ACPA, donc c'est Al-Qaïda en péninsule arabique au Yémen, grosso modo à l'époque, qui avait un magazine qui était très intéressant, Inspire en langue anglaise, et qui avait dans le numéro 9 Inspire de mai 2013, cibler 10 personnes, 10 personnalités, les 10 têtes de la mécréance à abattre. Il y avait Charbes. C'est une fatwa, ça. Clairement, ça veut dire...
Fatwa, c'est une condamnation...
Enfin, une fatwa pour qu'il soit tué.
Ouais.
Donc, menace très importante. Je n'ai pas compris pourquoi la protection de Charlie Hebdo a été diminuée. Il y avait un poste statique dans un fourgon de CRS et... Bah, les policiers estimaient que ce n'était pas normal de protéger les anarches, quoi, en fait, c'est à peu près ça. Donc, on a enlevé cette protection, on a pu lester que la protection minimum, c'est-à-dire deux gardes du corps sur Charbes. Donc, en fait, on a diminué la protection au moment où il y avait besoin de l'augmenter. Voilà. Après, est-ce que ça aurait pu être évité? Je vous dis simplement.
En tout cas, ce n'est pas logique. Ouais. Qui a décidé de ça? C'est qui décide de monter?
C'est un organisme qui s'appelle l'UCLAT. L'Union de coordination de la lutte antiterroriste, qui est formée de plein de différents services et qui va augmenter ou diminuer une protection. Donc là, je ne sais pas pour Exactement, parce qu'il y avait les syndicats de police qui avaient protesté sur cette protection, sur Charlie Hebdo. Donc je ne sais pas qui a pris la décision de diminuer la protection, parce que ça peut être directement le ministère de l'Intérieur, ou voilà, j'en sais rien.
Vous avez été emmerdé par les médias, vous, à l'époque, sur les affaires, comme il y a eu sur Hypercacher, Dominique Rizet, que je connais, hein, j'embrasse, qui a fait une connerie, il l'a dit lui-même d'ailleurs après, hein, il s'en est voulu. Qui a annoncé en direct qu'il y avait des otages en dessous, etc. Machin. Est-ce que vous avez déjà été emmerdé, vous, dans des affaires, par les médias ?
Alors, il y a
la
eu
présence.
Des... Ouais, la présence. Il y a eu parfois des choses qui sont sorties pas au bon moment. Le souvenir le plus important, c'était justement en 2002, quand j'étais au parquet antiterroriste. Je vous ai parlé du réseau Bégal. Il se trouve que Bégal est arrêté à notre demande aux Émirats Arabes Unis. Et que fuite l'arrestation de Bégal dans le journal Le Monde. Et du coup, tout son groupe qui était en France, il a fallu qu'on fasse la perquisition avec une autorisation de perquisition de nuit, ce qui était possible en matière terroriste, en urgence. Parce que les écoutes et ça tirait la chasse d'eau. Quoi. Donc en fait, le chef du groupe est arrêté, l'information est diffusée globalement en France, et donc ceux qui sont en France de son groupe sont informés avant qu'on ait pu les arrêter. Donc ces genres de trucs, si vous voulez, alors c'est la faute de la personne, c'est par moments c'est gênant.
C'est quoi la fois où vous avez le plus peur dans votre métier ? Vous avez une grande carrière, c'est quoi la fois où vous avez le plus peur pour vous ?
Alors c'est au Liban, une fois au Liban, parce que là on s'est retrouvé un peu du jour au lendemain avec ça tire dehors. C'était pas moi qui étais visé, hein. Vous savez que le Liban c'est en paix puis c'est en guerre.
Ouais,
vous êtes couché la veille. Et donc il y avait un gros problème, c'est que on essayait de rejoindre l'aéroport, mais pour rejoindre l'aéroport à Beyrouth, on passe par le quartier Hezbollah, qui était bouclé. Donc c'était plus possible. Donc c'était assez compliqué pour m'exfiltrer et puis nous exfiltrer. Donc voilà. Alors à l'époque là, c'était avant on était en 2010, 2011, mais avant les printemps arabes. Donc on avait avec Bachar, il y avait encore des relations. Donc on a pu avoir de l'aide en fait avec des voitures syriennes qui ont pu nous faire passer en quartier Hezbollah. Donc voilà.
Alors, pour mettre dans le coffre et passer...
Non. Diplomatique syrienne, etc., c'est les copains du Hezbollah. Hein.
C'est vrai.
À l'époque, oui. Voilà.
C'est pas rassurant quand même de passer dans ces quartiers-là, non, ça doit...
Non, mais voilà.
On s'est rappelé les fesses à chaque fois.
On avait cette protection, si vous voulez. Voilà. C'est un exemple, enfin, de choses un peu galères, mais bon.
Vous avez des enfants, ça vous a fait peur aussi ? Fut un temps, vous dire, tiens, je suis père de famille, est-ce que c'est pas un peu trop dangereux comme métier ? Est-ce qu'on se pose cette question-là quand on est papa ?
Ah ouais, on se pose beaucoup plus les problèmes de sécurité de ses enfants que de soi-même, en fait. C'est ça, en fait, la réalité. Voilà. Alors maintenant, on croise les doigts sur l'efficacité de la protection. C'est-à-dire, comme on a les gardes du corps, et comme, surtout, le but du jeu, c'est qu'on ne puisse pas savoir où vous habitez. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pas du tout pour la jouer à Starsky et Hutch. Hein. Quand on quittait le palais de justice, c'est gyrophare de thon et ça fonce.
Ah ouais.
Les gens le voient mal, comprennent pas ce truc-là, parce que
faut pas qu'on vous suive.
Couloir de bus, voilà, exactement, ça fonce les couloirs de bus. Je veux dire, il faut être assez loin du palais pour être sûr de pas avoir été suivi, puis après on redevient anonyme.
Hop, Giro,
voilà. Entrée. Et pour arriver chez soi, parce qu'il y a rien de pire que se retrouver à être suivi et quelqu'un sait où vous habitez.
Vous aviez des gardes du corps ?
Oui, deux équipes de deux. Ouais.
Quatre personnes ?
Alors ils alternent.
Ah oui, c'était pour tout le temps avoir deux personnes.
Ouais.
Nuit et jour ?
Ouais, enfin, nuit, rentrer chez eux, hein, pour être clair. Mais je pouvais jouer les joindre en cas de problème, mais bon. Voilà. Et puis à l'étranger, en vacances, ils me suivaient.
Ah, c'est vrai ? Ouais. Au Club Med, ils vous suivaient ?
Ah non, alors justement, au Club Med, c'est le seul endroit où je leur ai dit, allez voir ailleurs. Parce que, si vous voulez, là, c'est quand même une zone sécurisée, entre
guillemets. Ouais,
bien sûr. À l'entrée, ça aurait été ridicule.
Ah, c'est drôle. Donc, mais vous partez faire du trek en Thaïlande, ils vous suivent ?
Oui, mais si vous voulez, au bout d'un moment, très, très simplement, vous le faites pas, tout simplement.
Ah, c'est vrai ?
Ben oui, c'est-à-dire que vous allez, c'est comme par exemple à midi, si vous voulez, vous n'allez pas faire les boutiques, les magasins, les disquaires avec les gardes du corps, en fait, vous restez au bureau, je ne sais pas comment vous expliquer.
Vous, ça fait, c'est vous habituer à ça.
Oui, parce que faites... c'est lourd. Alors, du coup, vous avez changé un peu vos habitudes, etc. Et parce que tout devient compliqué. Je vais aller voir un concert, ils vont aller voir le producteur avant, etc., la régie.
C'est-à-dire,
je viens voir les lieux. Donc, c'est un peu trop lourd. Donc, on limite.
Ah, waouh!
Mais ouais. Par contre, il y a des côtés très sympas aussi, c'est qu'évidemment, on est pris en charge, que justement, ben, comme on nous annonce dans les trucs, donc, et puis sur les quatre, il y en a qui aiment bien aller voir un tel ou un tel, donc les goûts sont partagés. Donc, par exemple, moi, je suis allé voir avec eux un Grand Prix de France de Formule 1, le dernier, voilà. On a été voir des concerts, voilà.
C'est le GSPR, enfin, les...
Alors, ça a changé, parce qu'il y a eu... Il y a eu des fusions, etc. Bon, effectivement, service de protection des, nous, ça s'appelait service de protection des hautes personnalités,
ah oui.
SPHP. Après, ça a fusionné. Effectivement, il n'y a plus qu'un gros groupe maintenant.
D'accord. C'était des policiers.
Oui, tout à fait.
Ils sont assermentés, armés, etc.
Ah oui, tout à fait.
Et au restaurant, ils vous suivaient.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, vous allez manger avec votre femme de temps en temps, j'imagine.
Alors, il y a deux possibilités. Il y a des fois où on a pu déjeuner ou dîner ensemble, et puis parfois, quand c'était un truc effectivement plus intime, ben, ils étaient à une autre table dans le restaurant, quoi.
Ah ouais.
Ah oui, voilà.
C'est rassurant.
Ouais, c'est rassurant. Puis en plus, j'ai eu des très bons rapports avec eux. Ce sont des gens. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir des
équipes
très sympas, voilà. Et j'ai toujours des contacts avec ceux qui ont été plus longtemps avec moi.
Bien sûr. Ça vous a servi ? Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a servi ?
Oui. Alors, c'est difficile à dire ça. Par exemple, au Liban, on parlait de Franck. Franck Bensolaro était un grand professionnel. Au Liban, lui, il était à fond pour la discrétion, c'est-à-dire les voitures noires officielles qui viennent chercher à l'hôtel pour vous amener au palais de justice ou à l'endroit où vous y allez, je ne suis pas dedans.
D'accord.
Ça part, et puis on partait avec une bagnole.
C'est un leurre, quoi.
Ouais. Non, il est professionnel.
Et je dis, est-ce que ça vous a déjà servi ? C'est par exemple parce qu'un jour, quelqu'un vous a emmerdé, à un carrefour, à vous faire chier en voiture, et puis il y a la voiture derrière avec les flics
qui viennent vous aider. Non, parce que j'étais dans leur voiture.
Ah oui.
Sauf quand on partait en vacances, parce que là, avec les enfants et ma femme, on se suivait effectivement, mais j'ai pas eu ce cas de figure de...
Ah oui, d'accord, d'être emmerdé par quelqu'un dans la rue qui vienne vous aider pour...
Sinon, j'étais dans leur voiture quand je bossais.
Ils vous conduisaient, quoi.
Ils sont devant, et puis vous êtes toujours côté passager à gauche, hein, jamais à droite, puisque les voitures roulant à droite, si quelqu'un vous tirait dessus, il vaut mieux être plus éloigné.
Ah, waouh.
Sortir éventuellement aussi plus facilement.
D'accord.
Il y a des règles comme ça.
C'est intéressant, c'est un changement de quotidien par contre, effectivement.
Ah oui, ben après vous adaptez, vous faites moins de choses en fait. C'est ça que je voulais dire. Vous n'allez justement pas aller faire du trekking. Ou... il y a les fonds publics derrière, donc non, c'est pas.
Voilà. Ah oui, c'est ça.
C'est pas...
Vous avez quand même fait le Club Med, mais sans eux.
Ouais, parce que j'avais des enfants qui étaient pas très grands, et donc c'était pour se reposer un
baby
peu.
Baby club.
Et puis eux, ils avaient loué un truc pas trop loin, et puis voilà. Exactement.
Non, mais c'est ça doit vous faire, c'est une bouffée d'oxygène, de pouvoir aussi partir sans, j'imagine, à un moment donné, quand vous êtes dans un quotidien, vous pouvez plus toujours sortir de la voiture, aller en gyro, aller vite, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté agréable là-dedans ? Puis être dans les bouchons ?
Ah oui,
d'autres avantages.
Vous n'avez pas à vous garer, vous n'avez pas les bouchons, tout, on vous prépare tout. C'est pas que les gardes du corps, par exemple, l'avion, tout simplement. L'avion, vous ne passez pas au contrôle.
Ah bon ?
Vous arrivez directement à l'appareil, vous serrez la main du commandant de bord.
C'est vrai ?
Oui, bah d'ailleurs, il faut qu'ils filent leur flingue, donc il y a tout un truc. Donc, on pourrait voir ça comme des avantages, mais très franchement... Il y a quand même un paquet d'inconvénients.
Dernier petit sujet, les jurés, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes aux assises, il y a des jurés, ce qu'on appelle le jury populaire. Oui. Je crois que n'importe qui en France, à partir du moment où tu es majeur, si tu dis pas de bêtises, et si tu n'as pas de casier judiciaire, tu peux être appelé en France pour être membre du jury, etc. Mmh. Et tu es obligé d'y aller.
Il faut avoir 23 ans. Mais...
Ah, c'est 23.
Ouais. Mais bon, donc... On est tiré au sort, pas de casier, donc 23 ans, et on est obligé, mais il y a des gens qui font des demandes de dispense. Le premier jour de la session d'assises, on a convoqué les 35 titulaires et les 10 suppléants, et on va voir si on dispense certains jurés d'être dans la session d'assises, puisque après, pour chaque affaire, on tire le juré de jugement. Première instance, il y a 6 jurés, il y en a 9 en appel. Et donc, il y a des gens qui viennent des cercles médicaux, ou alors parfois c'est pas évident parce que les dispenses professionnelles, on essaye de voir, mais c'est avec l'artisan qui bosse tout seul. Bon, voilà, on essaye de satisfaire un peu, mais il faut quand même le nombre minimum pour pouvoir faire le tirage au sort de durée de jugement. Donc, il en faut au moins 20 en première instance, parce qu'avec les droits de récusation.
Et après, ils doivent donner leur avis. Ils ont un vrai impact sur le jugement.
Bien sûr. D'abord, ils doivent être très attentifs, puisqu'il y a l'oralité des débats aux assises. Tout ce qu'ils vont apprendre du dossier, ça va se passer à l'audience. On va leur montrer des films, des photos, des témoins qui vont venir déposer, des experts qui vont venir déposer, ils vont prendre des notes. On n'aura pas le dossier en délibéré. Moi, je connais le dossier papier, mais pas eux. Et donc après, délibéré final, chacun va à tour de rôle, va donner son avis. On va discuter, c'est vraiment des discussions, hein. Des gens qui sont pas toujours du même avis, etc. Et c'est là que ça devient difficile. Il y en a qui prennent très très à cœur et qui prennent parfois mal quand ils sont mis en minorité finalement. Mais c'est un principe démocratique. Il faut admettre qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Sinon c'est mort.
Oui, c'est la moyenne.
Et c'est principal des... Non, pour condamner en France, en première instance, en cour d'assises, il faut 7 voix sur 9. En appel, il faut 8 voix sur 12. C'est ce qu'on appelle des majorités qualifiées. C'est la présomption d'innocence qui se reflète dans une majorité qualifiée. Ce n'est pas la majorité simple. En première instance, on est 3 magistrats professionnels, 6 jurés, ça fait 9 personnes. Ça serait 5 normalement. Non, il faut 7 voix sur 9 pour condamner.
Il y en a qui le vivent mal, les jurés.
Oui. D'abord, il y a des choses très dures. Par moments, c'est difficile. Hein. Vous plongez quelqu'un, là, boum, vous en perdez un peu. Hein. Je me souviens d'un dossier de viol, mais pédophile, si vous voulez, des gens qui avaient été arrêtés parce qu'ils mettaient sur des sites pédophiles leurs exploits. Hein, c'est des sites hébergés en Russie, etc. Bon, il faut quand même qu'on montre un peu ce que c'est. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens là qui il y avait un côté pervers dans le sens où ils se vantaient auprès des autres internautes. De le petit neveu qui est arrivé de 6-7 ans, voilà ce que j'ai fait, ils se filmaient eux-mêmes.
Oh là là.
Donc ça, il faut le montrer au jury parce qu'il faut qu'il voit qui juge. Là. La problématique, c'est un exemple. Après, parfois, c'est parce qu'un gars a pris 3 coups de hache, 40 coups de couteau et que c'est pas forcément beau à voir.
Vous êtes immunisé sur ça ? Sur les images ?
Non. Pas complètement, presque.
Presque.
Mais pas complètement quand même. Hein. Mais je ne suis pas immunisé sur l'émotion qui se dégage parfois de l'audience. Quand des gens arrivent, des victimes viennent parler, voilà. Ou même des accusés qui peuvent être touchants aussi par rapport à leur vie, par rapport à pas mal de choses. Donc c'est quand même pas évident.
Alors, il y avait quelque chose que je voulais faire aussi. C'est l'échelle, parce qu'on essaye de faire une échelle souvent sur plein de sujets. Là, ce serait l'échelle du crime et des peines. Je vais vous citer des crimes possibles. Alors, sur chaque crime, en vérité, c'est très compliqué de juger, puisque d'aller vous demander de donner un chiffre, en fait, parce que, voilà. Mais est-ce qu'en France, on prend plus de prison en faisant ça ou ça ? Oui. Ça va être ça. On va essayer de le faire comme ça, on va essayer d'improviser. Est-ce qu'en France, on prend plus aujourd'hui à faire un cambriolage que du trafic de stupéfiants, par exemple ?
Non, on prend plus à faire du trafic de stupéfiants, de manière générale. Les cambriolages, il faudra vraiment un braquage, vol à main armée, avec des gens assez organisés. Parce qu'un cambriolage, on ne prend pas grand-chose.
Un homejacking, déjà, c'est...
Ah, c'est autre chose, parce qu'il y a une atteinte aux personnes, en plus de l'atteinte aux biens. Donc, homejacking, ça passe quand même au-dessus. Ouais.
Est-ce que, alors, par exemple, trafic de stupéfiants, est-ce qu'on prendra plus en France que du trafic d'êtres humains ?
Ouh, ça dépend, là. Vraiment, le trafic d'êtres humains, ça reflète tellement de choses. Il y a quand même des conditions, vraiment, parfois, des trafics d'êtres humains vraiment dégueulasses, ou c'est carrément de l'esclavage, et ça peut monter haut. Et puis, trafic de stupéfiants, il y a des peines très différentes selon la drogue, hein, concernée, quand même.
Parce qu'entre ce qu'il y a dans le code pénal et ce qui est vraiment appliqué, je donne un exemple. Fabrication de faux billets.
Perpète.
Fabrication de faux billets, c'est plus que la pédocriminalité, on a l'impression. Oui. C'est perpète, alors que pédocriminalité, ouais. c'est plus horrible, rien de plus horrible que de photocopier des billets, même si en réalité je comprends le principe que photocopier des billets, ça ferait effondrer l'État, si tout le monde en faisait. Donc je comprends l'idée.
Le maximum de la peine ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est un maximum, voilà. Bon, après, ça reflète souvent, c'est souvent des textes qui ont été faits il y a longtemps, qui n'ont pas été toilettés, et qui reflétaient une certaine société. Et il faut savoir que la société, par exemple, de la fin du XIXe siècle protégeait beaucoup les biens et l'État. Maintenant, on est beaucoup plus ciblé sur la protection de la personne. Et donc, les peines sont plus lourdes quand il y a des...
Une atteinte à la personne.
Voilà, mais il reste ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des peines aussi lourdes, ça c'est clair. Le maximum est là, et puis voilà, c'est tout.
– Et par exemple, un meurtre en France, on peut prendre moins que pour faire des faux billets, par exemple ?
Non. – Non, non. Dans le concrètement, meurtre, on va prendre plus. On va prendre 15 ans, 14 ans, des choses comme ça.
– Il y a eu des condamnations, je vous les citer, qui sont assez folles. On a regardé les condamnations les plus improbables, pour terminer l'émission. Et vous allez me dire si ça vous dit quelque chose, si c'est vrai ou si c'est faux, pareil. Un homme ivre laisse le volant à sa fille de 6 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Ça peut être vrai. Hein,
il était bourré, le père, 40 ans, il a mis la fille sur ses genoux, sans ceinture, évidemment. Et celle qui a conduit, évidemment, ils sont dans le fossé.
Ouais, mais je suis même sûr qu'il y a des pères sans être ivres qui sont capables de le faire. Donc c'est où vous voulez.
11 personnes de petite taille qui se font arrêter déguisées en Pinocchio, ivres et tout nus sur le toit d'un cinéma.
Alors là, non, ça me paraît...
Bah, c'est vrai aussi.
C'est vrai, ça ?
C'était à New York en 1940. On a repris vraiment toutes les infos. Un avocat en conseil de discipline parce qu'il a lancé une boîte de Pringles remplie de ses excréments sur une association de défense de victimes.
Oh non.
Si, c'est vrai. C'est dans l'Ohio, en novembre.
Ah oui, mais alors, c'est... Voilà, mais
c'est des Américains.
Mais ouais.
Les Américains sont au-dessus.
fallait me le dire. Tout
ils savent faire du show, les Ricains.
Tout est possible aux États-Unis. Ah, non, moi, je suis trop ciblé la France, là. C'est...
Ah, mais en Angleterre aussi, par exemple.
Ouais.
Là, il y a eu une histoire. Que des histoires vraies, vous pouvez les voir sur Internet. Il y a un homme condamné à 11 ans de prison parce qu'il a tenté de tuer sa femme avec un sac plastique en prenant la voie de Voldemort.
Ah oui, ça me paraît tout à fait possible, ouais. Pourquoi pas.
C'est le genre de truc que vous avez pu voir, vous, pendant...
Avec un sac plastique, c'est pour étouffer quelqu'un, c'est assez facile, effectivement. En prenant la voie de Voldemort... Moi, je ne sais pas trop quelle est la voie de Voldemort, je ne me souviens plus trop. Bon,
moi non plus.
Bon.
Un homme condamné pour avoir appelé son ex-femme 1386 fois en quelques jours.
Le harcèlement téléphonique.
Ça, vous en avez eu ?
Oui, bah, harcèlement téléphonique, c'est un grand classique.
Hein. Et les gens qui appellent vraiment 1000 fois leur femme ou leur...
Alors là, c'est beaucoup quand même, mais oui, qui appellent tout le temps, de façon complètement frénétique, du vrai harcèlement, ouais, ça existe.
Et ça, c'est sanctionné ?
Ah oui, c'est une infraction pénale, le harcèlement téléphonique, ouais, tout à fait.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Marc, vous avez écrit combien de livres en tout ? Je voulais mettre les liens en cliquables sous la vidéo.
Je crois 7, je ne sais pas, 3 BD, 4 BD, 7 livres.
Le roman du terrorisme.
Ça, c'est le dernier.
Qui a peur du petit méchant juge ?
Ouais.
Terroriste, Alam,
ouais.
Le magasin jaune.
Ouais.
Y a eu beaucoup, beaucoup de livres. Il y a eu une des BD, hein, Les fiancés du califat.
Alors ça, c'est la dernière BD. Il y avait une trilogie aussi avant. Qui s'appelait Compte à rebours.
Ça, c'est, j'avais noté cette histoire de deux femmes qui ont crashé un avion sur la Tour Eiffel, c'est
elles
ça ?
Elles sont quatre, c'est un groupe de
elles
quatre.
Elles sont quatre ?
Ouais, c'est un groupe de quatre. Mais non, le début de la BD, c'est pas ce qu'elles vont faire. Mais il y en a une qui rêve de faire ça. Donc elle se réveille. Elle était en train de le rêver.
Faut pas dire la fin de la BD, sinon...
Ouais, non, c'est le début, c'est pas grave. Voilà.
Bon, il y a beaucoup de livres, je vous mets tous les liens si ça vous intéresse, il y a plein d'histoires de Marc dessous, donc les liens cliquables sous la vidéo comme d'habitude. Une dernière question.
Ouais.
Pourquoi la perpétuité, c'est pas à vie ?
Bon, alors,
on dit à perpète, on prend perpète,
oui,
mais en fait c'est...
Oui,
la perpète en France, ça n'existe pas en fait.
Bah, ça n'existe pas. De fait, la plupart des gens sortent avant, mais il n'y a pas d'automaticité. Alors, dans l'absolu, quand quelqu'un prend perpétuité, s'il n'a pas une peine incompressible voilà, qui est prévue, on peut avoir une peine incompressible de 30 ans, par exemple, dans certains crimes très graves. De fait, on ne peut pas sortir avant 30 ans ni avoir d'aménagement de peine. Ça, c'est des peines de sûreté. Si rien n'est précisé, vous allez avoir une peine de sûreté, c'est 15 ans, simplement. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, ça veut dire que vous sortez, mais vous pouvez faire une demande de libération conditionnelle, de bracelet électronique, tous ces trucs-là. Il y a des gens, quand même, qui ne sortent jamais, hein.
Ah bon ?
Oui, qui meurt en détention.
Ah oui, qui meurt en détention. Mais...
Parce que et la perpète peut être vraie dans le sens où des tueurs en série, etc., on ne les sortira jamais quand même.
Ah oui, voilà. Même si...
Donc c'est un peu... Mais il y a plein de perpétuités où les gens sortent largement avant, ça c'est vrai.
Ah oui.
Mais les gens vraiment dangereux, très franchement, ils y restent. En matière de terrorisme, le plus vieux détenu qu'on doit avoir, c'est Georges Ibrahim Abdallah. Il doit être en prison depuis 1984. Vous voyez ? Donc, il y a... on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais les cas très graves, il y a plein de règles aujourd'hui, pour sortir quelqu'un, il faut quand même une expertise psychiatrique, une commission d'application des peines qui se réunit, plein de choses comme ça.
Mais par exemple, il y a les... Enfin, je ne sais pas les citer, mais il y a eu des tueurs en série qui sont encore là, ouais. des violeurs en série, et des tueurs en série aussi qui sont encore vivants, ils peuvent ne jamais sortir quand même, c'est-à-dire que ça peut être prolongé.
Oui, franchement, il y en a qui restent très longtemps. Il ne faut pas croire que c'est automatique. Maintenant, il y a des gens qui effectivement ont eu des peines lourdes, où ils ont fait qu'une partie, ils recommencent, ils se retrouvent dehors, et on les retrouve à nouveau, hein, ça c'est sûr. Quand on met perpète, généralement, quand même, ça veut dire quand même quelque chose.
C'est quoi la prochaine étape? Là, vous avez été, vous avez changé de poste plusieurs fois. Ce serait quoi votre prochaine étape?
Difficile à dire, c'est compliqué, hein, vous savez, la magistrature, à un certain moment. Moi, j'aimerais bien aller à la Cour de cassation, à un moment donné. La juridiction qui chapeaute tout ça, pour être un peu en retrait par rapport aux audiences, à la lourdeur des
de tout ça, ouais.
Voilà, juste statuer sur le droit, etc., peut-être.
Eh ben, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. On a pris le temps de discuter. On a pu j'ai pu vous poser toutes les questions. Je pense que beaucoup de gens se posent. Je trouve ça très intéressant. Merci hein, d'avoir pris quasiment 2 heures, hein, je crois, là, de tournage. Merci les amis d'avoir regardé toute l'émission. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube Légende. Si vous voulez prendre 2 minutes pour mettre un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, moi, j'adore regarder ça le soir dans le lit. Je regarde tous les commentaires que vous mettez sous les vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, un petit pouce en l'air, ça nous aide beaucoup. Et la petite cloche, comme ça, vous êtes au courant des... Ça vous envoie une notification quand on met une nouvelle vidéo. On fait une vidéo tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Merci à toute l'équipe qui a préparé aussi cette émission derrière les caméras. Merci à vous tous d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à nous écouter en podcast audio. On est premier des podcasts aujourd'hui en France. Donc merci beaucoup. Que ce soit sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi, vous pouvez écouter comme ça en faisant du sport, en faisant de la voiture, de la route, ou même dans le lit le soir. On met toutes les émissions en podcast audio. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Ciao tout le monde.
Légende Podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.